pas de croix, pas de couronne où l'on peut parvenir au chemin du salut, et réfuter les autres un discours montrant la nature et la discipline de la Sainte Croix du Christ, et que le renoncement à soi-même, et le fait de porter chaque jour la croix du Christ, est l'unique voie vers le repos et le royaume de Dieu. Par William Penn, fondateur de la Pennsylvanie et du West Jersey, publié en 1682 lorsque cela était nécessaire, le texte a été modernisé dans la langue et l'expression, mais le sens exact a été soigneusement préservé. Le texte entre crochets a été ajouté par l'éditeur du site. Un exemplaire broché du livre original de William Penn est disponible sur Amazon. Le PDF original est également disponible en téléchargement sur ce site. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir des références scripturaires ou des précisions dans les écrits. De la parole du Seigneur au-dedans, les deux livres les plus importants de ce site sont « Le journal de George Fox » et « Pas de croix, pas de couronne » de William Penn. « Pas de croix, pas de couronne », l'un des plus grands livres jamais écrits, qui a prononcé ces phrases audacieuses et résolues, à propos de l'auteur William Penn, 1644-1718, peinture de Frederick S. Lamb. William Penn, fondateur de la Pennsylvanie et du West Jersey, était un gentleman anglais roturier. Il était un intellectuel très instruit de son époque, parlant plus de 5 langues. En règlement des dettes du roi envers son père, le roi lui concéda d'immenses territoires dans le Nouveau Monde, correspondant à l'actuelle Pennsylvanie et à l'ouest du New Jersey. Il souhaitait appeler sa nouvelle colonie New Wales, mais le conseil du roi insista pour qu'elle s'appelle Pennsylvania, malgré ses supplications. Il établit des colonies dans le Nouveau Monde afin d'échapper aux persécutions religieuses que les Quakers subissaient de la part des puritains, baptistes, presbytériens et anglicans en Angleterre et en Europe. Colonies qui eurent une influence notable sur la forme de gouvernement adoptée plus tard par les États-Unis d'Amérique. Ces colonies se distinguaient par une pleine liberté de religion, des procès équitables, des représentants du peuple élus au pouvoir, et une séparation des pouvoirs, des idées qui constituèrent la base de la Constitution américaine. Très en avance sur son temps, Penn écrivit et plaida pour l'union de toutes les colonies anglaises dans ce qui devait devenir les États-Unis d'Amérique. Il fut aussi le premier à proposer les États-Unis d'Europe comme moyen d'éviter les guerres incessantes sur le continent. À la 24e année de William, il devint ministre Quaker et tout au long d'une longue vie, servit fidèlement son seigneur et maître. Une biographie de sa vie est disponible dans la barre latérale. Penn fut un géant du premier mouvement Quaker. Il servit leur cause à la cour de Jacques Yee, fonda et gouverna une colonie en Amérique, écrivit de nombreux pamphlets et livres de poids, et exerça un ministère remarquable pendant 30 ans à travers l'Angleterre, ainsi qu'en Irlande, en Amérique, en Hollande et en Allemagne. Penn choisit peut-être la voie la plus difficile possible pour un homme chrétien, être à la fois chrétien et dirigeant de gouvernement. Avec un courage que je ne puis imaginer, Penn traversa décision, négociation, administration et gouvernement d'une région de la taille de l'Angleterre, avec foi en son Dieu et des actions demeurant fidèles aux principes chrétiens. D'une contrée sauvage, il façonna une colonie qui surpassa rapidement ses voisins coloniaux plus anciens, tout en créant et en maintenant une paix avec les Indiens qui ne fut jamais égalée. En vivant dans une paix empreinte d'amour avec les Indiens, il laissa les habitants de Pennsylvanie libres de se consacrer à des activités productives, tandis que les colonies voisines s'épuisaient dans leur guerre constante avec leur population indienne. En France et sur le continent européen, les grands hommes et les écrivains se saisirent de la sainte expérience de Pennsylvanie comme de l'événement le plus remarquable de l'époque. Pour ces hommes, élevés dans une version romaine du christianisme et accoutumés aux atrocités et horreurs infligées par Corte et Pizarro aux indigènes d'Amérique du Sud, l'idée qu'un chrétien puisse, pendant 40 ans, tenir sa promesse sans jamais y manquer envers des Indiens païens relevait d'un idéalisme devenu réalité. C'était comme un rafraîchissement dans un grand désert épuisant. Qui était cet homme, et quel genre étrange de chrétien était-ce donc, pour tenir parole envers les païens, pour avoir fait ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et ce que l'on supposait ne jamais devoir être fait? Voltaire en fut ravi, et dès lors il aima les Quakers, il pensa même aller vivre en Pennsylvanie parmi eux. Penn marcha sur le fil tendu du pouvoir séculier avec une humilité chrétienne, peu pouvait seulement approcher ses réalisations temporelles, et rare serait ce qui pourrait égaler, dans le même temps, la constance de sa vertu chrétienne. Il eut les accomplissements d'un César, mais avec la bonté et la douceur du plus grand serviteur ayant jamais vécu, son Seigneur Jésus-Christ. En vérité, il appartenait à une noblesse chrétienne que nous ne reverrons peut-être jamais dans l'histoire. « Pas de croix, pas de couronne » est une œuvre majeure de Penn, écrite alors qu'il était emprisonné à la Tour de Londres pour avoir rédigé un pamphlet qui contestait les vues dominantes de l'Église anglicane établie. On prétendit qu'il niait la divinité du Christ et on l'emprisonna pour hérésie. Loin de nier la divinité du Christ, son Seigneur et Maître, Penn exalte le Christ tout au long de ce livre, tout en suppliant ceux qui se disent chrétiens de s'éveiller à la fausseté de tout salut qui ne serait pas fondé sur leur souffrance sur la croix, et il montre comment, en suivant les traces du Christ, être véritablement sauvé des péchés de convoitise, d'affection, de servitude et d'émotion pour parvenir ainsi, dans cette vie, à la paix, à la joie et au repos éternel. Les tromperies d'il y a 300 ans, telles que Penn les décrit dans le livre, sont encore plus grandes aujourd'hui. Les tentations et les distractions du monde ont augmenté de manière exponentielle, rendant ces avertissements, ces supplications et ces conseils dans cet écrit d'autant plus importants aujourd'hui. Préface, cher lecteur, la grande affaire de la vie de l'homme est de comprendre le but de la vie, pourquoi il est vivant, à savoir glorifier Dieu et sauver sa propre âme, tel est le décret du ciel, aussi ancien que le monde. L'unique but de la vie est de chercher Dieu et, en le trouvant, d'entrer en union avec lui. Pourtant, l'homme se soucie de tout sauf de ce dont il devrait le plus se soucier, et méprise l'idée de s'enquérir de son propre être, de son devoir originel et de sa fin, préférant consacrer ses jours, les pas qu'il devrait faire vers la béatitude à satisfaire l'orgueil, l'avidité et le luxe de son cœur. Agissant comme s'il était né pour lui-même, ou plutôt comme s'il s'était donné la vie, et n'étant ainsi pas soumis au compte à rendre et au jugement d'une puissance supérieure, son Créateur. Dans cet état sauvage et douloureux, le pauvre homme s'est conduit lui-même par sa désobéissance à la loi de Dieu, dans son cœur astérisque en faisant ce qu'il sait ne pas devoir faire, et en ne faisant pas ce qu'il sait devoir faire. Et tant que cette maladie demeure sur l'homme, il fera de son Dieu son ennemi, et sera incapable de recevoir l'amour et le salut que Dieu a préparé pour le monde par son Fils Jésus-Christ. Astérisque alors que le sacrifice du sang du Christ a rendu la loi mosaïque caduque, la loi intérieure dans le cœur de chaque homme est toujours vivante, jamais annulée, et cette loi intérieure inclut le noyau moral de la loi mosaïque. Et cette loi intérieure, selon laquelle tous les hommes seront jugés, Romains 2, 14, 16, doit être obéie. Elle nous fait nous sentir mal quand nous mentons ou volons. Les lois morales de la loi intérieure dépassent les lois morales mosaïques externes, car comme Jésus l'a dit, il est venu accomplir la loi. Puis il nous a expliqué comment elle devait être renforcée, ce que reflète la loi intérieure. On peut comprendre que cette loi intérieure renforcée a été transgressée chaque fois que vous manifestez un fruit de la chair, ce qui inclut l'immoralité sexuelle, l'impureté, la convoitise, la saleté, les propos insensés, la plaisanterie, la profanation, l'adultère, le manque de retenue, la sorcellerie, la haine, les disputes, les jalousies, la rage, l'ambition égoïste, l'esprit de division, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches, la fête, les mauvaises pensées, les fornications, la méchanceté, la tromperie, le blasphème, l'orgueil. Chacune de ces choses disqualifie tout homme pour le ciel. Pour plus d'informations sur ce sujet, voire jusqu'à ce que vos paroles et vos actes soient inspirés par Dieu, vous devez obéir à la loi intérieure dans le cœur de chaque homme. Si, lecteur, vous êtes une telle personne, mon conseil est de vous retirer au-dedans de vous-même et de considérer l'état de votre âme, car le Christ vous a donné la lumière pour le faire. Cherchez avec soin et en profondeur, votre vie s'y trouve, votre âme est en jeu. Cela ne se fait qu'une fois, si vous vous trompez sur ce point, la perte est irréparable et le monde n'a pas assez de prix pour vous racheter. Voulez-vous donc, pour un tel monde, vous ralentir, prolonger le temps de votre salut et perdre votre âme? Je vous l'accorde, cela doit se faire avec une grande patience, mais cela aussi doit avoir une fin. Par conséquent, ne provoquez pas Dieu qui vous a fait au point qu'il vous rejette. Savez-vous ce qu'est le rejet? C'est l'enfer, l'angoisse éternelle des damnés. Oh! Lecteur, comme quelqu'un qui connaît les terreurs du Seigneur, je vous supplie d'être sérieux, diligente et ferve quant à votre propre salut. Oui, et comme quelqu'un qui connaît aussi la consolation, la paix, la joie et le plaisir des voies de la justice, je vous exhorte et vous invite à accueillir les réprimandes et les convictions de la lumière et de l'Esprit du Christ dans votre propre conscience et à supporter le jugement pour ceux qui ont commis le péché. Le feu brûle, mais la paille. Le vent souffle, mais la balle. Abandonnez votre corps, votre âme et votre esprit à celui qui fait toutes choses nouvelles, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, un nouvel amour, une nouvelle joie, une nouvelle paix, de nouvelles œuvres, une vie et une conduite nouvelle. Les hommes sont devenus corrompus et souillés par le péché, et ils doivent être sauvés par le feu qui le purge. C'est pourquoi la parole de Dieu est comparée à un feu, et le jour du salut à un four, et le Christ lui-même à un affineur et purificateur de l'argent. Venez, lecteur, écoutez-moi un moment. Je cherche votre salut, c'est mon dessein, vous me le pardonnerez. Un affineur s'est approché de vous, sa grâce vous est apparue. Elle vous montre les convoitises du monde et vous apprend à les renier. Astérisque, recevez son levain, la grâce, et il vous changera son remède et il vous guérira. Il est aussi infaillible que gratuit, sans argent et avec certitude. Un simple attouchement de son vêtement a suffi autrefois et suffira encore. Sa vertu est la même, elle ne peut s'épuiser car en lui habite la plénitude. Béni soit Dieu pour sa suffisance. Il a fait reposer le secours sur lui, afin qu'il fût puissant pour sauver tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Si vous le faites, il vous changera, oui, votre corps vil pour le rendre semblable à son corps glorieux. Il est le grand philosophe, en effet, la sagesse de Dieu qui change le plomb en or, les choses viles en choses précieuses, car il fait des saints à partir des pécheurs et des quasi-dieux à partir des hommes. Que nous reste-t-il à faire pour témoigner de sa puissance et de son amour? Voilà la couronne, mais où est la croix? Où est la coupe amère et le baptême sanglant? Venez, lecteurs, soyez comme lui. Pour cette joie transcendante, relevez la tête au-dessus du monde, alors votre salut s'approchera vraiment. Le sens de la grâce a été détourné par les sectes protestantes du christianisme, loin de la vérité, à savoir qu'avec la repentance, l'Esprit de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde présent, se purifiant un peuple qui lui appartient en propre, zélé pour les bonnes œuvres et transféré à la place vers le mensonge perverti, selon lequel la grâce excuse tous les péchés passés, présents et futurs chez les croyants excusants. La fausse Église a fait du sang de Jésus une excuse pour le mal, c'est pourquoi ils ont fait de son sang une chose profane, ainsi ils foulent aux pieds le Fils de Dieu et montrent du mépris pour la grâce. Hebdis 29. Ce n'est pas ce que l'on dit qui fait de Jésus leur Seigneur ou Maître, mais leurs actes. En prétendant que la grâce excuse le fait de continuer à pécher, ces hommes ont renié et désavoué Jésus comme leur Seigneur et Maître, lui qui a dit « Repentez-vous ou périssez, et ne péchez plus ». De la parole du Seigneur au-dedans, souviens-toi, toute personne qui pêche le nie comme Seigneur et Maître. Es-tu d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais ils s'en moquent. Ils ont pris la Bible et en ont fait une chose profane, utilisée pour justifier leur immersion dans le péché. Ils ne voudraient aucune loi. La nouvelle loi est devenue l'injustice. Le christianisme n'a aucune idée de ce que je suis ni de ce que je défends. Pierre identifia aussi les faux dirigeants chrétiens de son temps, en effet, en tenant des discours enflés et vains, ils séduisent, par les convoitises de la chair et par beaucoup de dérèglements, ce qui échappait à peine à ceux qui vivent dans l'erreur. Alors qu'ils leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption péché, immoralité, car on est esclave de ce par quoi on est vaincu. 2 Pierre 2, 18-19. Les faux docteurs promettent la liberté de continuer dans le péché, mais Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8, 34. Le salaire du péché, c'est la mort. Rome 6, 23. Non seulement le christianisme a fait de la grâce une licence pour l'immoralité, mais le christianisme a aussi fait que la conscience de ses croyants a été cautérisée comme au fer rouge, les laissant indifférents au péché et au mal. Il y a une liberté pour un Fils de Dieu crucifié, libre de tout péché, marchant dans l'amour et accomplissant la loi, mais jusqu'à ce que vous soyez libre de tout péché, vous êtes exposé à être exclu du ciel à votre mort. Pour plus sur ce sujet, voir Vraie grâce vs. Fausse grâce. La croix du Christ est le chemin du Christ vers la couronne du Christ. Tel est le sujet du discours qui suit, écrit d'abord durant ma détention à la Tour de Londres, en l'année 1668, et maintenant réimprimé avec de grands ajouts de matière et de témoignages, afin que vous, lecteurs, soyez gagnés au Christ, et si vous l'êtes déjà, amenés plus près de lui. C'est un sentier où Dieu, dans sa bonté éternelle, guida mes pas dans la fleur de ma jeunesse, vers l'âge d'environ 22 ans. Alors il me prit par la main et me fit sortir des plaisirs, des vanités et des espérances du monde. J'ai goûté aux jugements et aux miséricordes du Christ, et aux froncements de sourcils et aux reproches du monde. Je me réjouis de mon expérience et je la consacre à votre service en Christ. C'est une dette que je devais depuis longtemps et que l'on attendait depuis longtemps. Je l'ai maintenant acquittée et j'ai délivré mon âme. À mon pays et au monde des chrétiens je la laisse. Mon Dieu, s'il lui plaît, la rendra efficace pour eux tous et détournera leur cœur celui des chrétiens de cette envie, de cette haine et de cette amertume qu'ils nourrissent les uns contre les autres à propos des choses du monde, sacrifiant l'humanité et la charité à l'ambition et à la cupidité, par lesquelles ils remplissent la terre de troubles et d'oppression, afin que recevant l'Esprit du Christ dans leur cœur, dont les fruits sont l'amour, la paix, la joie, la tempérance et la patience, l'affection fraternelle et la charité, ils puissent encore âme. Ainsi je le désire, ainsi je le prie, cher lecteur ami. Votre ami chrétien ferve, William Penn Worminghurst dans le Sussex, le 1er du 6 mois, 1682 chapitre I. Bien que la connaissance de la croix du Christ et l'obéissance à celle-ci soient d'une importance infinie pour l'âme des hommes, puisqu'elle est l'unique porte du véritable christianisme, le chemin toujours foulé vers la béatitude par les anciens chrétiens, pourtant, avec une extrême tristesse, je dois dire qu'elle est si peu comprise, tant négligée, et ce qui est pire, si amèrement contredite par la vanité, la superstition et l'intempérance des chrétiens de profession, que nous devons soit renoncer à croire ce que le Seigneur Jésus nous a dit. 2. Car même si nous étions d'une tendresse et d'une charité extrême dans l'examen de ces nations qui se donnent quelques droits au Saint-Nom du Christ, si nous voulons être justes aussi, nous devons reconnaître qu'après tous les avantages gracieux de la lumière et les obligations de fidélité que ces derniers âges du monde ont reçus par la venue, la vie, la doctrine, les miracles, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, avec les dons de son Saint-Esprit, auxquels s'ajoutent les écrits, les travaux et le martyre de ses chers disciples. Car bien qu'ils n'adorent pas les mêmes idoles que les païens, ils adorent le Christ avec le même cœur mauvais que les païens, et ils ne peuvent jamais faire autrement tant qu'ils vivent dans les mêmes convoitises. Ainsi, le chrétien non mortifié et le païen sont de la même religion. Car bien qu'ils adressent leurs prières à des objets différents, leur adoration, dans les deux cas, n'est que contrainte et cérémonielle, et la divinité qu'ils adorent véritablement est le Dieu de ce monde, astérisque le grand seigneur des convoitises. Ils se prosternent, avec toutes les puissances de l'âme et des sens, devant le Dieu des convoitises. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que porterons-nous? Et comment passerons-nous notre temps? Par quels moyens amasser des richesses, accroître notre pouvoir, étendre nos territoires, et ennoblir et perpétuer nos noms et nos familles sur la terre? Cette bassesse sensuelle est exprimée de la manière la plus frappante et résumée par l'apôtre bien-aimé Jean en ces mots, « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, qui, dit-il, ne viennent pas du Père mais du monde » 1 Jean 2,16, « et le monde entier est sous la puissance du mauvais » Jean 5,19. Astérisque Penn vient d'affirmer que le christianisme adore Satan, alors qu'il croit adorer le Christ, et selon le Quaker des débuts Isaac Pennington, habitant du royaume, dans l'apostasie, les hommes n'ont connu ni Dieu ni Satan, ni la lumière ni les ténèbres, mais se sont trompés prenant l'un pour l'autre, adorant le diable au lieu de Dieu. Cela s'applique au XI siècle encore plus qu'au XVIII siècle de Penn et de Pennington, et englobe tout le christianisme d'aujourd'hui. 3. C'est une réflexion douloureuse, mais une vérité indéniable. Ces convoitises mondaines remplissent l'étude, les soucis et la conduite de la misérable chrétienté, et pour aggraver les choses, elles ont grandi avec le temps. Car à mesure que le monde vieillit, il empire. L'exemple des époques anciennes est débauché, et leurs conclusions misérables n'ont pas dissuadé notre temps, mais l'ont excité, si bien que les gens de cette époque deviennent plus impies et ont poussé le mal plus loin que jamais. Ainsi, au lieu de progresser en vertu grâce à de meilleurs temps, ils sont scandaleusement devenus pires que les non-chrétiens. L'orgueil des chrétiens, les complaisances de la luxure, l'impureté, l'ivrognerie, les jurons, le mensonge, l'envie, la médisance, la cruauté, la trahison, la cupidité, l'injustice et l'oppression sont si courants, et commis avec tant d'ingéniosité et d'excès, qu'ils ont fait trébucher et rendu amer les non-chrétiens au point de tourner le christianisme en dérision, astérisque alors que leur exemple devrait au contraire inspirer une bonne conduite. Astérisque la conduite des soi-disant chrétiens est si impie que leur hypocrisie amène les incroyants à rejeter le Christ. Les personnes qui se disent chrétiennes sont des pierres d'achoppement qui empêchent le monde d'entendre le message du Christ. De la parole du Seigneur au-dedans, es-tu d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais ils s'en moquent. Par leur démonstration évidente de péché, les chrétiens font blasphémer mon nom parmi les peuples. Ces gens ne me représentent plus, ils ont suscité une grande indignation. 4. Au temps de l'Église primitive, la gloire du christianisme était la pureté de ses croyants, mais depuis lors, il y a eu un misérable éloignement des chrétiens hors de la pureté, de sorte qu'il faut dire que les chrétiens d'aujourd'hui sont un fardeau plus lourd pour le Christ que les Juifs qui l'ont traité de mauvais et l'ont crucifié. Car les Juifs, par la force de l'ignorance et l'extrême préjugé qu'ils avaient contre l'apparence humble du Christ, ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu, mais pendant 2 ou 3 ans, ils l'ont persécuté et enfin, ils l'ont crucifié en un seul jour. Mais la cruauté des faux chrétiens a duré plus longtemps que celle des Juifs qui l'ont crucifié. Avec Judas, ils l'ont professé, puis, durant tous ces siècles, l'ont très vilement trahi, persécuté et crucifié par une apostasie perpétuelle des mœurs, en s'éloignant du renoncement à soi-même et de la sainteté de sa doctrine, leur vie montrant que leur foi est mensonge. Ce sont ceux dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu de nouveau, et l'exposent à l'ignominie, Hébreux 6,6, et dont les cœurs souillés, Jean dans son Apocalypse qualifie la place de Sodome et d'Égypte, appelée spirituellement ainsi, là même où leur Seigneur a été crucifié, Rêve 11,8. Et comme le Christ disait autrefois que les ennemis d'un homme sont ceux de sa propre maison, ainsi les ennemis du Christ aujourd'hui sont principalement ceux qui prétendent être croyants, ils lui crachent dessus, ils le cloutent et le percent, ils le couronnent d'épines, et lui donnent à boire du fiel et du vinaigre, Matthieu 27,34. Et cela n'est pas difficile à comprendre, car ceux qui vivent dans la même nature et le même principe mauvais que les Juifs qui l'ont crucifié au dehors, le crucifient au dedans d'eux-mêmes, puisque ceux qui rejettent aujourd'hui la grâce dans leur propre cœur sont d'un même sang et d'une même génération que les Juifs au cœur endurci, qui résistèrent à la grâce alors apparue en et par le Christ. 5. Le péché est d'une seule nature dans le monde entier. Car bien qu'un menteur ne soit pas un ivrogne, ni un jureur un fornicateur, ni l'un ni l'autre proprement un meurtrier, ils sont pourtant tous d'une même église, tous des branches d'une seule racine mauvaise, tous parents. Ils n'ont qu'un seul père, le diable, comme le Christ l'a dit aux Juifs de profession, l'église visible de cette époque. Il a méprisé leurs prétentions à Abraham et à Moïse, et leur a dit clairement que quiconque commet le péché est esclave du péché, Jean 8, 34. Les chefs religieux juifs faisaient l'œuvre du diable, et étaient donc des enfants du diable. L'argument demeure toujours valable pour les mêmes raisons, car comme Paul l'a dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, Rome 6, 16, et Jean disait à l'église d'autrefois, que personne ne vous séduise, celui qui commet le péché est du diable, 1 Jean 3, 7, 8. Judas fut-il jamais meilleur chrétien pour avoir crié « Salut, maître » et pour avoir embrassé le Christ? Pas du tout, ce furent le signal de sa trahison, les signes donnés afin que les Juifs sanguinaires puissent l'identifier et l'arrêter. Judas l'appelait maître, mais le trahissait, il l'embrassait, mais le vendait pour qu'il soit mis à mort, tel est aussi le résultat de la religion du faux chrétien. Si l'on demande à un chrétien « Le Christ est-il votre Seigneur ?» Il s'écriera « Bien sûr qu'il est notre Seigneur, oui, il est mon Seigneur et Sauveur. Très bien, mais obéissez-vous à ses commandements, s'ils connaissent ses commandements, ils diront « Non, comment le pourrions-nous ? Si vous n'obéissez pas à ses commandements, comment pouvez-vous prétendre être ses disciples ? C'est impossible, disent-ils. Quoi ? Attendez-vous de nous que nous obéissions à tous ses commandements ? Aucun homme ne le peut. Ainsi, le Christ a-t-il rendu impossible d'être chrétien ? Le Christ est-il déraisonnable ? Moissonne-t-il là où il n'a pas semé ? Exige-t-il là où il n'a pas donné la capacité ? Ainsi comme Judas, les chrétiens modernes l'appellent maître, mais s'unissent au mal du monde pour le trahir, et ils l'embrassent et l'étreignent comme des croyants superficiels et de façade, puis ils le vendent comme Judas pour satisfaire leur passion complaisante. Ainsi comme Dieu l'a déjà dit, ils le font servir, ils l'accablent par leurs péchés, et pour leurs péchés aussi. Ésaïe 43, 24, 6. Que nul ne trompe sa propre âme, on ne cueille pas des raisins sur des épines, ni des figues sur des chardons, Matthieu 7, 16. Un loup n'est pas une brebis, ni un vautour une colombe. Quelle que soit la forme, le peuple ou l'église auquel vous appartenez, c'est une vérité de Dieu pour l'humanité. Ceux qui ont même la forme de la piété, mais qui par leur vie non mortifiée en renient la puissance celle de les purifier et de les délivrer du péché, n'appartiennent pas à la vraie église, mais à la fausse église laquelle, bien qu'elle se dise l'épouse de l'agneau, ou l'église du Christ, rêve 21 de 20-17, est ce mystère ou Babylone mystérieux, justement appelé par le Saint-Esprit la mère des prostituées et de toutes les abats. Comme elle était alors, ainsi la Babylone mystique est aujourd'hui la grande ennemie du peuple de Dieu. Les 45 000 sectes du christianisme d'aujourd'hui sont la grande prostituée de Babylone annoncée dans l'Apocalypse. Elles prétendent être l'épouse vierge du Christ, mais commettent continuellement un adultère spirituel avec le monde, et excusent toutes sortes de péchés chez leurs auditeurs, l'avidité, la cupidité, l'orgueil, l'immoralité sexuelle, le mensonge, la fraude, les plaisirs complaisants, l'envie et l'idolâtrie. 7. Il est vrai que ceux qui sont nés de la chair haïssent et persécutent ceux qui sont nés de l'esprit, qui sont la circoncision du cœur. Il semble que ceux si réellement nés de l'Esprit de Dieu ne puissent ni reconnaître ni adorer Dieu selon les inventions, méthodes et prescriptions de la prostituée, ni recevoir pour doctrine ses vaines traditions, pas plus qu'ils ne peuvent se conformer à ses modes et coutumes corrompues dans leur conduite. Ainsi, la prostituée n'est pas seulement une fausse apostate, mais elle est devenue aussi une persécutrice des vrais chrétiens ivres du sang des saints. Il ne lui suffit pas de décliner elle-même de l'ancienne pureté, elle force les autres à l'impureté aussi. Elle ne laisse aucun repos à ceux qui ne veulent pas participer à sa dégénérescence ni recevoir sa marque. Y en a-t-il de plus sage qu'elle, que l'Église mère ? Non, non, et nul ne peut faire la guerre à la bête sur laquelle elle est assise, ces puissances mondaines qui la protègent et jurent de la maintenir contre les cris de sédicide. L'apostasie et la superstition sont toujours orgueilleuses et impatientes de la dissidence, tous doivent se conformer ou périr. C'est pourquoi les témoins assassinés et le sang des âmes sous l'autel Rêve 6-9 se trouvent à l'intérieur des murs de cette Babylone mystique, cette grande cité de faux chrétiens, et le Saint-Esprit, dans l'Apocalypse, lui en impute la responsabilité. Et il n'est pas étrange qu'elle tue les serviteurs qui ont d'abord crucifié le Seigneur, mais il est étrange, et barbare aussi, qu'elle tue son mari et assassine son Sauveur, titre auquel elle paraît si attachée, et qui lui ont été si profitables, et par lesquels elle voudrait se recommander, bien que sans aucune justice. Mais ses enfants sont réduits si entièrement sous la domination des ténèbres, du fait de leur désobéissance continue à la manifestation de la lumière divine dans leurs âmes, qu'ils oublient ce qu'était l'homme autrefois, ou ce qu'il devrait être maintenant, et ils ne reconnaissent pas le christianisme vrai et pur quand ils le rencontrent, et pourtant ils se glorifient de le professer. Leurs mesures concernant le salut sont si charnelles et si fausses qu'ils appellent le bien mal et le mal bien, qu'ils font d'un diable un chrétien et d'un saint un diable. De sorte que, bien que la licence injuste de leur vie soit lamentable, car pour eux-mêmes, elle conduit à la destruction cette opinion commune, selon laquelle ils pourraient être enfants de Dieu tout en étant dans un état de désobéissance à ses saints commandements, et disciples de Jésus bien qu'ils se détournent de sa croix, et membres de sa vraie Église qui est sans tache ni ride, quand bien même leur vie est pleine de taches et de rides, et de toutes les tromperies qu'ils exercent sur eux-mêmes, la plus désastreuse pour leur condition éternelle. Car ils sont en paix dans le péché et en sécurité dans la transgression. Leur vaine espérance fait taire leur conviction et étouffe tout mouvement délicat vers la repentance, si bien que leur erreur quant à leur devoir envers Dieu est aussi pernicieuse que leur rébellion contre lui. Ainsi ils marchent au bord des falaises et se flattent eux-mêmes, jusqu'à ce que la tombe les engloutisse et que les jugements du grand Dieu brisent leur leisangi et détrompent leurs pauvres âmes misérables par l'angoisse des méchants, comme récompense de leurs œuvres. 8. Tel a été, tel était, tel sera le sort de tous les chrétiens mondains. Leur fin est terrible, je le sais comme quelqu'un qui connaît les terreurs du Seigneur dans la voie et l'œuvre de son propre salut. Même si je n'étais pas obligé par devoir envers Dieu, ni par obligation envers les hommes, la compassion seule me pousse à m'opposer aux superstitions et aux convoitises du monde, et à inviter les chrétiens de profession à la connaissance et à l'obéissance de la croix quotidienne du Christ. Car la croix est l'unique voie, laissée par lui et établie pour nous, afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Ainsi ceux qui portent maintenant le nom de chrétiens peuvent réellement le devenir, par la puissance de la croix, à laquelle ils sont maintenant morts, et, au lieu d'être morts au monde par elle, ils peuvent être rendus participants de la résurrection qui est en Jésus-Christ, dans une nouveauté de vie. Car ceux qui sont véritablement en Christ, c'est-à-dire rachetés par lui et unis à lui, sont de nouvelles créatures, Galates 6:15. Ils ont reçu une volonté nouvelle, une volonté qui fait la volonté de Dieu et non la leur. Ils prient en vérité et ne se moquent pas de Dieu lorsqu'ils disent « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ils ont de nouvelles affections, tournées vers les choses d'en haut, Col 3:1-3, et ils font du Christ leur trésor éternel. Une foi nouvelle, 1 Jean 5:4, qui surmonte les pièges et tentations de l'esprit du monde, ou tels qu'ils apparaissent à travers les autres, et enfin de nouvelles œuvres, non d'un agencement superstitieux ni d'une invention humaine, mais les fruits purs de l'Esprit du Christ opérant en eux, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la longanimité, la tempérance, l'affection fraternelle, la foi, la patience, la bonté, la bienveillance et la vertu contre lesquelles il n'y a point de loi, et ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ. Car s'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit astérisque, telle est la doctrine de Paul, ceux qui ne marchent pas selon cet Esprit Saint, d'après sa doctrine, ne sont pas en Christ, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune part en lui, ils ne font que revendiquer le salut par lui, et par conséquent ils sont condamnés. Astérisque marcher selon la chair, c'est ce que tout le monde fait, marcher dans les convoitises de votre chair, accomplissant les désirs de la chair et des pensées de votre esprit, selon les voies de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan, F2:2-3. Tant que votre cœur n'a pas été nettoyé et purifié, il est comme le cœur de tous les hommes, mauvais trompeur par-dessus tout, et désespérément corrompu, Jer 17:9. Tant que le Seigneur n'a pas crucifié votre esprit sur la croix, votre esprit est l'esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu et ne peut se soumettre à la loi de Dieu, Rome 8:7. Tant que votre imagination, mauvaise, n'a pas été détruite, marcher selon votre imagination est pire que d'adorer des idoles de pierre. Vous n'êtes pas sauvé et vous n'avez pas reçu le salut tant que vous n'avez pas reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau et un esprit souffle nouveau. Alors seulement vous êtes digne de la compagnie de Jésus, du Père, des anciens saints rendus parfaits et des anges au ciel. Quiconque prétend être en Christ alors qu'il n'est pas crucifié et assis avec lui dans les cieux prend son nom en vain. Marcher selon l'Esprit, c'est que Dieu fournisse toutes vos paroles immédiatement avant de parler et inspire toutes vos actions, c'est alors que vous faites la volonté du Père sur la terre comme elle est faite au ciel par les anges, c'est alors que vous marchez comme lui, Jésus, a marché, et comme il est, ainsi sommes-nous dans ce monde présent. 1 Jean 4, 17-9. Et la vérité, c'est que la religion des méchants est un mensonge, il n'y a point de paix, a dit le prophète pour les méchants, Isaïe 48-22. En effet, il ne peut y en avoir, ils sont repris dans leur propre conscience et condamnés dans leur propre cœur dans toute leur désobéissance. Où qu'ils aillent, des reproches les accompagnent, et souvent aussi des terreurs, car c'est un Dieu offensé qui les pique et qui, par sa lumière, met leur péché en ordre devant eux. Parfois ils s'efforcent de l'apaiser par une dévotion et un culte façonné selon la chair, mais en vain, car le vrai culte rendu à Dieu, c'est faire sa volonté qu'ils transgressent. Le reste n'est qu'un faux compliment, comme celui qui dit qu'il ira et n'y va pas, Matthieu 21:30. Parfois, il se réfugie dans les divertissements et la compagnie pour noyer la voix du repreneur et émousser ses flèches, chasser les pensées troublantes et se mettre hors de portée de celui qui trouble leur plaisir, mais le Tout-Puissant, tôt ou tard, est sûr de les rattraper. Il n'y a pas de fuite devant sa justice finale pour ceux qui rejettent les conditions de sa miséricorde. Les rebelles impénitents à sa loi pourront alors appeler les montagnes et courir dans les cavernes de la terre pour y trouver protection, mais en vain. Son œil qui sonde tout pénétrera leurs plus épaisses couvertures et fera jaillir une lumière dans cette obscurité qui terrifiera leurs âmes coupables et qu'ils ne pourront jamais éteindre. En effet, leur accusateur est avec eux, ils ne peuvent pas plus s'en défaire que d'eux-mêmes, il est au milieu d'eux et s'attachera étroitement à eux. L'esprit qui rend témoignage, avec l'esprit des justes rendra témoignage contre le leur. Non, leurs propres cœurs témoigneront abondamment contre eux, et si notre cœur nous condamne, dit l'apôtre Jean, Dieu est plus grand, et il connaît toutes choses, 1 John 3, 20, c'est-à-dire qu'on n'échappe pas au jugement de Dieu, dont la puissance est infinie, si l'homme n'est pas capable d'échapper à sa propre condamnation. C'est en ce jour-là que des chrétiens orgueilleux et voluptueux apprendront que Dieu ne fait pas exception de personne, que toutes les sectes et tous les noms seront engloutis dans ces deux genres, brebis et boucs, justes et injustes, et que les très justes eux-mêmes doivent subir une épreuve, ce qui fit s'écrier cet homme saint, si le juste est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur. 1 P 4:18. Si leurs pensées, leurs paroles et leurs œuvres doivent subir l'épreuve et être examinées devant le juge impérial du ciel et de la terre, comment l'impie en serait-il exempté? Non, il nous est dit par celui qui ne peut mentir que beaucoup alors crieront même « Seigneur, Seigneur ». Mettront en avant leur profession et rappelleront les œuvres qu'ils ont faites en son nom pour l'émouvoir à la miséricorde et pourtant seront rejetés avec cette sentence terrible « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais point » Matt 7, 23. Comme s'il avait dit « Retirez-vous, vous qui faites le mal, bien que vous m'ayez professé, je ne vous ai jamais connu, vos vains et mauvais mensonges vous ont rendu impropre à mon saint royaume. Allez-vous-en d'ici et allez vers les dieux que vous avez servis, vos convoitises chéries que vous avez adorées, et le monde mauvais que vous avez tant convoité et vénéré. Qu'ils vous sauvent maintenant, s'ils le peuvent, de la colère qui va fondre sur vous, qui est le salaire des actes que vous avez commis. Voilà la fin de leur œuvre bâtie sur le sable, le souffle du juge l'abattra, et grande sera la ruine. C'est maintenant que les justes l'emportent sur les méchants, ce qui fit s'écrier autrefois un apostat, que je meure de la mort des justes, et que ma fin dernière soit semblable à la sienne, Nom 23, 10. Car la sentence des justes, ceux qui avaient trouvé sur la terre une paix et une assurance éternelle est changée, et le juge sourit. Il pose un regard d'amour sur ses propres brebis, et les invite en disant, « Venez, vous les bénis de mon Père, Matt 25, 34, ceux qui, par une persévérance patiente dans le bien, ont longtemps attendu l'immortalité. » Le juge leur dit, « Vous avez été les véritables compagnons de ma tribulation et de ma croix, et avec une fidélité infatigable dans l'obéissance à ma sainte volonté, vous avez vaillamment enduré jusqu'à la fin, les yeux sur moi, l'auteur de votre foi précieuse, pour la rémunération de la récompense que j'ai promise à ceux qui m'aiment et ne défaillent pas. Entrez dans la joie de votre Seigneur et héritez du royaume préparé pour vous dès la fondation du monde. » Astérisque, astérisque, certains, au sein du christianisme, croient qu'ils hériteront du ciel à cause de leurs bonnes œuvres sur la terre, en se fondant sur les Écritures qui disent que chaque homme est jugé selon ses paroles et ses œuvres, mais un débauché aimable, ou un ivrogne affectueux, ou un avare bienveillant, ou une personne philanthrope mais immorale, ou un menteur sympathique, quelles que soient ses bonnes œuvres, n'échappera pas à la fureur de Dieu. Car il est impossible de faire de bonnes œuvres à moins que Dieu ne vous pousse à savoir quelle bonne œuvre faire, et à moins que votre esprit égoïste ne soit crucifié sur la croix intérieure du renoncement à soi, afin que l'Esprit du Christ prenne sa place sur le trône de votre cœur. Dieu ne vous poussera pas à savoir quelle bonne œuvre faire, votre foi sera montrée comme morte, et votre prétendu salut sera révélé d'une manière effrayante, comme un mensonge, que vous avez aimé plus que la vérité. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, Matt 7, 21, et pour faire la volonté de Dieu, vous devez être rendu parfait afin d'être un instrument dans sa main pour accomplir des œuvres de justice selon sa direction. Un véritable chrétien fait parfaitement la volonté de Dieu, entendant Dieu commander toutes ses paroles et voyant Dieu diriger toutes ses actions. 10. Au chrétienté, mon âme prie avec la plus vive ferveur que, malgré toute votre haute profession du Christ et de sa religion douce et sainte, votre vie inadaptée et non chrétienne ne vous fasse pas rejeter à ce grand tribunal du jugement du monde et ne vous fasse pas perdre, à la fin, un si grand salut. Écoutez-moi une fois, je vous en supplie. Le Christ peut-il être votre Seigneur, et vous ne pas lui obéir, ou pouvez-vous être son serviteur, et ne jamais le servir? Ne vous y trompez pas, ce que l'on sème, on le récoltera. Galates 6:7. Il n'est pas votre Sauveur tant que vous rejetez dans votre cœur sa grâce par laquelle il doit vous sauver en vous purifiant. Dites, de quoi vous a-t-il sauvé? Vous a-t-il sauvé de vos convoitises pécheresses, de vos affections mondaines, et de vos vaines conduites? Sinon, alors il n'est pas votre Sauveur. Car bien qu'il soit offert comme Sauveur à tous, il n'est en réalité Sauveur que pour ceux-là seuls qui sont sauvés par lui, et nul n'est sauvé par lui qui vit dans ces maux par lesquels il est perdu loin de Dieu, et desquels il est venu les sauver. C'est du péché que le Christ est venu sauver l'homme, et de la mort et de la colère qui en sont le salaire, mais ceux qui ne sont pas sauvés délivrés, par la puissance du Christ dans leur âme, de la puissance que le péché a eue sur eux, ne pourront jamais être sauvés de la mort et de la colère, elles sont au contraire le salaire assuré du péché dans lequel ils vivent la mort. Voyez jusqu'où les gens peuvent obtenir la victoire sur ces mauvaises dispositions et ces convoitises charnelles auxquelles ils ont été adonnés. Cela peut aller si loin qu'ils sont véritablement sauvés et témoins de la rédemption qui vient par Jésus-Christ. Son nom montre son œuvre, tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés, Matthieu 1:21. Voici, disait Jean au sujet du Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jean 1:29. C'est-à-dire, voici celui que Dieu a donné pour éclairer les hommes, et pour être le salut de tous ceux qui le reçoivent, lui, et sa lumière et sa grâce dans leur cœur, et qui prennent leur croix chaque jour et le suivent, ceux-là qui préfèrent se priver du plaisir d'assouvir leur convoitise plutôt que de pécher contre la connaissance qu'il leur a donnée de sa volonté, ou contre ce qu'ils savent ne pas devoir faire. Ainsi, il n'y a aucun doute quant à la preuve du salut. Elle se trouve dans la biographie de William Penn, dans sa déclaration ci-dessous détaillant la manière dont il a reçu le salut. Oui, c'est le Christ, la véritable et unique semence de Dieu, qui a visité mon âme dès mes jeunes années, qui a mis mes péchés en ordre devant moi, m'a repris et m'a inspiré une tristesse selon Dieu, me faisant souvent pleurer dans des lieux solitaires, et dire au-dedans de mon âme, « Oh, si je connaissais le Seigneur comme je devrais le connaître. Oh, si je le servais comme je devrais le servir. » Oui, souvent un grand souci pesait sur mon esprit quant à mon état éternel, désirant avec douleur que le Seigneur donne du repos à mon âme au grand jour de la détresse. Alors toute la gloire du monde n'était qu'une bulle, oui, rien ne m'était cher pourvu que je gagne le Christ, car l'amour, le plaisir et l'amitié de ce monde étaient un fardeau pour mon âme. Dans cet état de recherche, je fus dirigé vers le témoignage de Jésus dans ma propre conscience, comme la véritable lumière resplendissante qui m'est donnée pour discerner les pensées et les intentions de mon propre cœur. Et dès que je m'y fus tourné, je trouvai que c'était cela même qui, depuis mon enfance, m'avait visité bien que je ne le connusse pas distinctement. Et lorsque je le reçus dans l'amour que je lui portais, il me montra tout ce que j'avais jamais fait, et reprit toutes les œuvres infructueuses des ténèbres, me jugeant comme un homme dans la chair, et appliquant en moi le jugement à la règle, et la justice au niveau. Par l'éclat de sa venue dans mon âme, le Seigneur Jésus découvrit l'homme du péché qui s'y trouvait, sur son trône, et par le souffle de sa bouche, qui est l'épée à deux tranchants de son esprit, il détruisit sa puissance et son royaume, et m'ayant rendu témoin, l'ayant moi-même expérimenté de la mort de la croix, il m'a aussi rendu témoin, l'ayant moi-même expérimenté de sa résurrection, de sorte que, dans une bonne mesure, mon âme peut maintenant dire « Je suis justifié en esprit », et bien que l'état de condamnasse. L'homme du péché est révélé, le fils de perdition, celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou de tout ce qui est adoré, de sorte qu'il est acide comme Dieu dans le temple de Dieu votre cœur, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2:3-4. Cela se rapporte à l'esprit mauvais en vous, l'homme du péché qui est révélé. Tout homme commence avec l'esprit de Satan semé dans son cœur. Cet esprit égoïste doit être crucifié avant que le Christ puisse régner. Avant que le Christ ne soit révélé, l'homme du péché est révélé, vous montrant toutes sortes de mal sur la terre, c'est-à-dire en vous, c'est l'abomination de la désolation, se tenant dans le temple de votre cœur, là où elle ne devrait pas être. Mais c'est la fin de votre moi charnel, car alors le Christ vient et tue cet esprit résiduel de Satan en vous par l'éclat et la splendeur de sa venue, par son souffle, et en écrasant la tête de Satan sous vos pieds, le talon, le jugement final, le vrai baptême du Saint-Esprit, dans la mort du Christ. Le baptême de mort. La participation à sa mort. Alors Jésus ressuscite en vous pour être votre véritable Seigneur, 2 Cor 4:14, Col 2, 11, 12, 3, 1 F 2, 6, qui ordonne, commande, incite toutes vos pensées, les paroles à prononcer et les actes à accomplir, chapitre I par tout ce qui a été dit aux chrétiens T. Et par ce secours plus grand et plus disponible, si vous vouliez vous en servir, qui est la lumière que le Seigneur a allumée en vous, si elle n'est pas totalement éteinte, il peut d'abord apparaître clairement combien grand et profond a été votre recul. Vous qui, du temple du Seigneur, êtes devenu une cage d'oiseaux impurs, et au lieu d'une maison de prière, une caverne de voleurs, une synagogue de Satan, et le réceptacle de tout esprit souillé. Ensuite que sous toute cette défection mise à nu, vous avez néanmoins estimé votre moi corrompu sur la base de votre profession de christianisme, et vous vous êtes dangereusement abusé par l'attente du salut. La première rend votre maladie dangereuse, mais la dernière la rend presque incurable. 2. Pourtant, il y a de la miséricorde auprès de Dieu. Bien qu'ils doivent être craints, il ne prend aucun plaisir à la mort éternelle des pauvres pécheurs, non pas même des rétrogrades, S18-20-24. Il veut que tous viennent à la connaissance et à l'obéissance de la vérité, et soient sauvés. Il a présenté son Fils comme une propitiation et l'a donné comme sauveur pour ôter les péchés du monde entier, de sorte que ceux qui croient et le suivent peuvent ressentir la justice de Dieu dans la rémission de leurs péchés, et l'effacement de leurs transgressions pour toujours, Matthieu 21. Luc 1, 77, Rome 3, 25, Hébreux 9, 24, 28, 1 John 2, 1, 2. Maintenant, voici le remède, un remède infaillible établi par Dieu, un élixir précieux, en vérité, qui ne manque jamais, et ce médicament universel auquel aucune maladie n'a jamais pu échapper. 3. Mais direz-vous qui est le Christ, et où le trouver, et comment ce puissant remède est-il reçu et appliqué? Je vous le dis donc, d'abord, il est la grande lumière spirituelle du monde, qui éclaire toute personne venant dans le monde, par laquelle il leur dévoile leurs œuvres de ténèbres et de méchanceté, et les reprend de les commettre. Deuxièmement, il n'est pas loin de vous, Actes 17-27, comme l'apôtre Paul disait de Dieu aux Athéniens, « Voici, dit le Christ lui-même, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, Rêve 3-20. Quelle porte cela peut-il être, sinon celle du cœur de l'homme, 4. Vous, comme l'auberge d'autrefois, avez été pleine d'hôtes, vos affections ont accueilli d'autres amants, il n'y a eu aucune place pour votre Sauveur dans votre âme. C'est pourquoi le salut n'est pas encore entré dans votre maison, bien qu'il soit venu à votre porte et qu'il vous ait souvent été offert, et bien que vous le revendiquiez depuis longtemps. Mais s'il appelle, s'il frappe encore, si sa lumière brille encore, si elle vous reprend encore, il y a de l'espérance, votre jour n'est pas fini, et le repentir n'est pas encore caché à vos yeux, mais son amour vous poursuit encore, et sa sainte invitation à être sauvé demeure. C'est pourquoi, ô chrétienté, croyez, recevez et appliquez-le correctement, c'est d'une nécessité absolue, afin que votre âme vive éternellement avec lui. Il dit aux Juifs, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés, et là où je vais, vous ne pouvez venir. » John 8, 21-24. Et parce qu'ils ne le crurent pas, ils ne le reçurent pas, ni aucun bénéfice par lui. Mais ceux qui le crurent le reçurent, et tous ceux qui l'ont reçu, son disciple bien-aimé nous dit, « Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » John 1, 12-13. C'est-à-dire, qui ne sont pas enfants de Dieu selon les façons, prescriptions et traditions des hommes, qui se disent son église et son peuple. Ce qui n'est pas selon la volonté de la chair et du sang, ni selon l'invention de l'homme charnel, étranger à la régénération et à la puissance du Saint-Esprit, mais de Dieu, c'est-à-dire selon sa volonté et l'action et la sanctification de son esprit et de sa parole de vie en eux. Et ceux-là furent toujours bien versés dans la juste application du Christ, car il fut pour eux, en effet, propitiation, réconciliation, salut, justice, rédemption et justification. Je vous dis donc que, si vous ne croyez pas que celui qui se tient à la porte de votre cœur et frappe, qui met vos péchés en ordre devant vous et vous appelle à la repentance, est le Sauveur du monde, vous mourrez dans vos péchés, et vous n'irez jamais là où il est allé. Car si vous ne croyez pas en lui, il est impossible qu'il vous fasse du bien ou opère votre salut. Le Christ n'agit pas contre la foi mais par elle. Il est dit autrefois, il ne put faire beaucoup de miracles dans certains endroits, parce que les gens ne croyaient pas en lui, Matthieu 13, 58, Mark 6, 5. Ainsi si vous croyez vraiment en lui, votre oreille sera attentive à sa voix en vous, et la porte de votre cœur s'ouvrira à ses coups. Vous vous rendrez, aux découvertes de sa lumière, et les enseignements de sa grâce vous seront très précieux. 5. Il est de la nature de la vraie foi de produire une sainte crainte d'offenser Dieu, une profonde révérence pour ses préceptes, et l'attention la plus délicate au témoignage intérieur de son esprit, par lequel ses enfants, dans tous les âges, ont été conduits sûrement à la gloire. Car de même que ceux qui croient véritablement reçoivent le Christ dans toutes ses offres à l'âme, il est aussi vrai qu'ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils reçoivent et acceptent une puissance et une capacité intérieure de faire tout ce qu'ils demandent, sa force pour mortifier leurs convoitises, maîtriser leurs affections, résister aux mouvements mauvais, se renier eux-mêmes, et vaincre le monde dans ses apparences les plus séduisantes. C'est la vie de la bienheureuse croix du Christ, qui est le sujet du discours qui suit, et que vous, ô homme, devez prendre, si vous avez l'intention d'être disciple de Jésus. On ne peut pas dire non plus que vous receviez le Christ, ou que vous croyiez en lui, tandis que vous rejetez sa croix. car de même que recevoir le Christ est le moyen établi par Dieu pour le salut, porter la croix quotidienne à sa suite est le seul véritable témoignage qu'on l'a reçu, et c'est pourquoi il l'ordonne comme le grand signe du disciple. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. C'est cela, chrétienté, qui vous a tant manqué, et dont le manque s'est révélé être l'unique cause de votre triste détérioration par rapport au christianisme pur. Considérez cette croix, car comme c'est votre devoir, elle conduit aussi à votre restauration. Car de même que la connaissance de la cause d'une maladie guide le médecin à porter un jugement juste et sûr dans l'application de son remède, de même il vous éclairera grandement, quant au chemin de votre guérison, de connaître et de peser la première cause de cette chute spirituelle et de ce mal qui vous est survenu. Il faut donc un aperçu général des annales de votre Église primitive, et par conséquent de l'œuvre de ceux qui travaillèrent d'abord dans la vigne chrétienne, et si, en cela, quelque chose est répété, le poids et la dignité du sujet le supporteront, sans qu'il soit besoin d'excuses. 6. L'œuvre de l'apostolat, nous dit un grand artisan de cette œuvre, était de tourner les hommes des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, Actes 26, 18. C'est-à-dire qu'au lieu de céder aux tentations et aux impulsions de Satan, qui est le prince des ténèbres ou de la méchanceté, l'un étant une métaphore de l'autre, par la puissance duquel leur intelligence est obscurcie et leurs âmes tenues au service du péché, ils devaient tourner leur esprit vers l'apparition du Christ, la lumière et le sauveur du monde, qui par sa lumière brille dans leurs âmes et les reprend quand et comment ils cèdent au péché, afin qu'ils deviennent enfants de lumière et marchent dans le sentier de la justice. Et pour cette œuvre bénie de réforme, le Christ revêtit ses apôtres de son esprit et de sa puissance, afin que les hommes ne dorment plus dans une sécurité de péché et une ignorance de Dieu, mais s'éveillent à la justice, afin que le Seigneur Jésus leur donne la vie. Ainsi ils pouvaient cesser de pécher, se refuser le plaisir de la méchanceté, et par un vrai repentir, tourner leur cœur vers Dieu en faisant le bien, où se trouve la paix. Et vraiment Dieu bénit si bien le travail fidèle de ces humbles membres de la société, et pourtant ces grands ambassadeurs auprès du genre humain, qu'en quelques années beaucoup de milliers qui avaient vécu sans Dieu dans le monde, sans sentiment ni crainte de lui dans l'illégalité, fort étrangers à l'œuvre de son esprit dans leur cœur, captivés par des convoitises charnelles, furent intérieurement frappés et vivifiés par la parole de vie, et rendus sensibles à la venue et à la puissance du Seigneur Jésus-Christ comme juge et législateur dans leur de sorte que, dès lors, ils ne vécurent plus pour eux-mêmes, ni ne furent entraînés par ces convoitises diverses d'autrefois, par lesquelles ils avaient été séduits loin de la vraie crainte de Dieu, mais la loi de l'esprit de vie, Rome 8, 2, par laquelle ils triomphaient de la loi du péché et de la mort, faisait leur délice, et ils y méditaient jour et nuit. Leur respect envers Dieu n'était plus enseigné par les préceptes des hommes, Isa 29, 13, mais venait de la connaissance qu'ils avaient reçue par l'œuvre même du Christ et par ses impressions dans leur âme. Ils avaient abandonné leur ancien maître, le monde, la chair et le diable, et s'étaient livrés à la sainte conduite de la grâce du Christ, qui leur enseignait à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le siècle présent, Titus 2, 11, 12. C'est là en vérité la croix du Christ, et voici la victoire qu'elle donne à ceux qui la prennent par cette croix. Ils mouraient chaque jour à l'ancienne vie qu'ils avaient vécue, et par une sainte vigilance contre les mouvements secrets du mal. De sorte qu'ils, comme l'apôtre Jean le leur conseillait, se gardaient eux-mêmes, afin que le malin ne les touchât point, 1 John 5, 18. Car la lumière, que Satan ne peut supporter et dont le Christ les avait éclairés, le découvrait au-dedans d'eux, ainsi que toutes ses approches et ses assauts contre l'esprit, et la puissance qu'ils recevaient par leur obéissance intérieure aux manifestations de cette lumière bénie leur permettait de lui résister et de le vaincre dans toutes ses ruses. Et c'est ainsi que, là où auparavant rien n'était examiné, maintenant rien ne passait sans examen, toute pensée devait venir en jugement, et son origine et sa tendance étaient aussi soigneusement approuvées, avant qu'on lui permît la moindre place dans leur esprit. Il n'y avait pas de crainte de prendre des ennemis pour des amis, tant que cette garde stricte était maintenue sur la porte même de l'âme. Alors les anciens cieux et la terre, c'est-à-dire l'ancienne conduite terrestre, et l'ancien culte charnel, c'est-à-dire juif ou d'ombre, passèrent rapidement, et chaque jour toute chose devenait nouvelle. Il n'était plus juif celui qu'il était au dehors, ni la circoncision celle qui était dans la chair, mais était juif celui qu'il était intérieurement, et la circoncision était celle du cœur, dans l'esprit et non dans la lettre, et dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu, Rome 2, 28-29.
7.
En vérité, la gloire de la croix brillait si visiblement à travers le renoncement de ceux qui la portaient chaque jour, qu'elle frappait les païens d'étonnement, et en peu de temps, elle ébranla tellement leurs autels, discrédita leurs oracles, frappa la multitude, pénétra la cour et triompha de leurs armées, qu'elle entraîna prêtres, magistrats et généraux en triomphe à sa suite, comme trophée de sa puissance et de sa victoire. Et tant que cette intégrité demeurait chez les chrétiens, grande était la présence, et invincible la puissance qui les accompagnait, elle éteignait le feu, intimidait les lions, détournait le tranchant de l'épée, tenait tête aux instruments de cruauté, convainquait les juges et convertissait les bourreaux, Hébreux 11:32-40, Isaïe 43:2, Dan 3:12-30. En fait, le moyen que leurs ennemis prenaient pour les détruire les augmentait, et par la profonde sagesse de Dieu, ceux qui, dans tous leurs desseins, s'efforçaient d'éteindre la vérité en devenaient de grands promoteurs, Dan 6:16-28. Alors, aucune pensée vaine, aucune parole oiseuse, aucune action inconvenante n'était permise, non pas même un regard immodeste, ni habit de cour, ni atour de cérémonie, ni respect de convenance, ni honneur personnel, et encore moins ces immoralités lubriques et ces vices scandaleux, aujourd'hui en vogue parmi les chrétiens, n'auraient pu trouver chez eux ni exemple ni approbation. Leur souci n'était pas de passer leur précieux temps dans les plaisirs, mais de le racheter F5-5-6, afin d'avoir assez de temps pour mener à bien leur grand salut, ce qu'ils faisaient soigneusement avec crainte et tremblement, non pas avec bal et mascarade, théâtre, danse, festin et jeu, non, non, rendre certaine leur vocation et leur élection céleste leur était bien plus chère que les pauvres et frivoles joies de la mortalité. Car comme Moïse, ayant vu celui qui est invisible, et ayant trouvé que sa bonté était meilleure que la vie, que la paix de son esprit valait mieux que la faveur des princes, et comme il ne craignait pas la colère de César, il choisissait plutôt de souffrir les afflictions des vrais pèlerins du Christ que de jouir des plaisirs du péché, qui ne durent qu'un temps, estimant ses reproches plus précieux que les trésors périssables de la terre. Et si les tribulations du christianisme étaient préférables aux consolations du monde, et les reproches du Christ plus précieux que tous les honneurs du monde, alors il n'y avait assurément aucune tentation qui pût ébranler l'intégrité de la chrétienté. 8. Par ce bref écrit décrivant ce qu'était la chrétienté, vous pouvez voir, ô chrétienté, ce que vous n'êtes pas, et par conséquent ce que vous devriez être. Mais comment s'est-il fait que, d'une chrétienté douce, miséricordieuse, renonçant à elle-même, souffrante, tempérée, sainte, juste et bonne, si semblable au Christ dont elle portait le nom, nous trouvions maintenant une chrétienté superstitieuse, idolâtre, persécutrice, orgueilleuse, emportée, envieuse, malveillante, égoïste, ivrogne, lubrique, impure, sexuellement immorale, menteuse, jurant, blasphémant, avare, oppressante, frauduleuse, avec toutes les autres abominations connues sur la terre. J'énonce comme raison indubitable de cette dégénérescence ceci, le mépris intérieur de votre esprit pour la lumière du Christ qui brille en vous, celle qui vous a d'abord montré vos péchés et les a repris, et qui vous a appris et vous a rendu capable de les renier et de leur résister. Astérisque car, de même que votre crainte envers Dieu et votre sainte abstinence de l'injustice n'avaient d'abord pas été enseignées par les préceptes des hommes, mais par cette lumière et cette grâce qui révélaient les pensées et desseins les plus secrets de votre cœur, et qui exploraient les replis les plus intimes, mettant vos péchés en ordre devant vous et vous reprenant à cause d'eux, ne laissant passer sans jugement aucune pensée, parole ou œuvre infructueuse des ténèbres, ainsi, lorsque vous avez commencé à mépriser cette lumière et cette grâce, à être négligé. Astérisque Penn, et beaucoup des premiers Quakers, ont écrit sur leur expérience des reproches de la lumière concernant le péché et le mal en eux, dès leur jeunesse. Avant une recherche intense, vers 18 ans, je me souviens d'au moins une expérience où je projetais de mener à bien une escapade sexuelle, et j'eus soudain une vision, avec une compréhension très claire et convaincante des raisons pour lesquelles je ne devais pas poursuivre mes plans. Quand cela se termina, je me souviens avoir pensé, eh bien, c'était certainement un exposé parfaitement formulé des raisons pour lesquelles je devrais abandonner mon projet. Je me demande d'où cela venait, sans comprendre. Mais j'ai continué mes plans, ce que je regrette aujourd'hui. Je comprends maintenant que c'était le Christ, la lumière en moi, qui me reprenait. Si dans ma jeunesse, on m'avait appris à m'attendre à ce que la lumière du Christ en moi me reprenne périodiquement, peut-être aurais-je reconnu la source et aurais-je été beaucoup plus attentif. Cela m'amène à me demander dans quel monde nous vivrions si l'on nous apprenait dès le plus jeune âge à nous attendre aux reproches convaincants de Dieu. Le monde pourrait être un endroit bien meilleur. Chaque personne est appelée anonymement par Dieu à se détourner du mal, au jour de sa visitation, lorsque le Christ, la lumière donnée à tout homme afin qu'il puisse croire, prêche l'Évangile en eux, il frappe à la porte du cœur de chaque personne. La grande majorité des gens ignorent son appel anonyme à se détourner du mal parce qu'ils aiment leur mode de vie égoïste et n'ont aucun amour pour la vérité concernant leur voie mauvaise. Ainsi ils nient et haïssent la vérité, ainsi ils nient et haïssent le Christ. Les quelques-uns qui prêtent attention à ces supplications anonymes, aimant la vérité, se détournent du mal et sont alors choisis par Dieu pour recevoir davantage de son esprit en retour. Dieu leur donne, par révélation, un avant-goût de sa bonté, qui crée en eux la faim et la soif d'en recevoir davantage, et ainsi de le chercher de tout leur cœur et de toute leur âme. De la parole du Seigneur au-dedans, « Si je me taisais, ils auraient une excuse, chaque homme a entendu l'appel à se repentir, Mais c'est un appel doux et anonyme à abandonner leur voie mauvaise. Vous pourriez demander « Pourquoi anonyme ?» Ce que l'homme entend et ou voit est la vérité de ses voix. S'il répond à l'appel, il a de l'appréciation et de l'amour pour la vérité. S'il ignore l'appel, il est la vérité. C'est ainsi une épreuve pour discerner ceux qui aiment la vérité ou aiment leur voie mauvaise. De la parole du Seigneur au-dedans, beaucoup de gens utilisent la visitation de ce site web pour enlever le blocage des visitations passées. Les gens ne peuvent pas venir dans la peur, ils doivent venir dans l'amour. Ce n'est que par l'amour que la croix peut être endurée jusqu'à la mort de l'esprit égoïste. En bref, vous avez manqué de prendre le Saint-Joug du Christ, de porter votre croix quotidienne. Vous avez été néglige dans vos affections et n'avez tenu aucun compte ni contrôle de vos actions. Mais vous avez refusé d'auditer les comptes dans votre propre conscience, avec le Christ votre lumière, le grand évêque de votre âme et juge de vos œuvres, par quoi la sainte crainte a diminué, l'amour s'est refroidi, la vanité a abondé et le devoir est devenu lourd. Alors la formalité est apparue, à la place de la puissance de la piété, la superstition, à la place de l'institution du Christ. Là où l'œuvre du Christ était de détourner l'esprit de ses disciples d'un temple extérieur, de rites et services charnels, vers le culte intérieur et spirituel de Dieu, conforme à la nature de la divinité, on a au contraire réintroduit un culte mondain, humain et pompeux, et une prêtrise, un temple et un autel mondain ont été rétablis. C'est comme lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles gênes. 6.2. L'œil pur s'obscurcit, celui que le repentir avait ouvert. L'œil qui ne voyait aucun avantage hors du Christ devint œil de convoitise, rouvert par le Dieu de ce monde. Ces plaisirs mondains, qui font que ceux qui les aiment oublient Dieu, bien qu'autrefois méprisés à cause du Christ, commencèrent maintenant à recouvrer leur ancienne beauté et leur ancien crédit dans vos affections, et de l'attrait pour eux, ils devinrent l'étude, le souci et le plaisir de votre vie. Vrai, il restait encore des formes extérieures de culte et une révérence nominale et verbeux envers Dieu et le Christ, mais c'était tout, car le scandale de la Sainte Croix cessa, la puissance de la piété fut niée, le renoncement à soi fut perdu, et quoique fécond dans l'invention d'ornements cérémoniels, on demeura stérile quant aux fruits bénis de l'Esprit. Et 1000 coquilles ne font pas un seul noyau, ni beaucoup de cadavres un seul homme vivant. 9. Ainsi la religion passa de l'expérience à la tradition, et le culte de la puissance à la forme, de la vie à la lettre. Et au lieu d'élever des requêtes vives et puissantes, animées par un profond sentiment de besoin et par l'assistance du Saint-Esprit, par lequel les anciens priaient, luttaient et triomphaient auprès de Dieu, voici un faux rituel récité mécaniquement, une formalité terne et insipide, composée d'agenouillements et de révérences physiques, de robes et de grandes salles d'assemblée, dansant, de sermons, de lecture de la Bible. Mais quand votre cœur devint charnel, votre religion le devint aussi, et ne l'aimant pas telle qu'elle était, vous l'avez façonnée à votre goût. Oubliant ce qu'a dit le saint prophète, le sacrifice des méchants est une abomination à l'Éternel, Pro 15:8, et ce que Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas, James 4:3. Pourquoi ? Parce que vous demandez dans de mauvaises intentions, c'est-à-dire avec un cœur qui n'est pas droit, mais insincère, non mortifié, sans la foi qui purifie l'âme, et qui ne peut donc jamais recevoir ce qui est demandé. De sorte qu'un homme peut dire avec vérité que votre condition est pire à cause de votre religion, parce que vous êtes tenté de vous croire meilleur grâce à elle, alors que vous ne l'êtes pas. 10. Eh bien, par cette vue qui vous est donnée de votre chute honteuse hors du christianisme primitif, et de sa véritable cause, à savoir la négligence de la croix quotidienne du Christ, il vous sera facile de vous instruire du chemin de votre rétablissement. Car regarder la porte de sortie, c'est regarder la même porte par laquelle il faut rentrer, et de même qu'avoir laissé tomber et avoir décliné la croix quotidienne a causé votre perte, ainsi reprendre et endurer la croix quotidienne favorisera votre rétablissement. C'est la même voie par laquelle les pécheurs et les apostats deviennent disciples de Jésus. Quiconque, dit le Christ, veut venir après moi et être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix quotidienne et qu'il me suive. Matthieu 16:24, Marc 8:34, Luc 14:27. Rien de moi ne suffit, notez-le, car de même que cela est suffisant, cela est indispensable, pas de couronne sans la croix, pas de vie éternelle sans la mort sur la croix. Il est juste rétribution que la Sainte Croix du Christ crucifie toutes les affections mauvaises et barbares qui, depuis si longtemps, crucifient de nouveau le Christ. Chapitre I aux chrétienté, la croix quotidienne a toujours été le chemin de la gloire. Ainsi, la section suivante, qui concerne entièrement la doctrine de la croix, peut s'adresser avec le plus de preuves et d'avantages à votre conscience, et mériter ainsi votre sérieuse considération. Premièrement, qu'est-ce que la croix du Christ? Deuxièmement, où la croix du Christ doit-elle être prise? Thirdly, how and after what manner is it to be carried? Quatrièmement, quel est le rôle et la tâche principaux de l'homme vis-à-vis de la croix? On y exposera largement les péchés qu'elle crucifie, ainsi que les maux qui les accompagnent, Cinquièmement et enfin, j'ajouterai de nombreux témoignages de personnes vivantes et mourantes de grande réputation, soit par leur rang, leur savoir ou leur piété, comme confirmation générale de l'ensemble du traité. Au premier, qu'est-ce que la croix du Christ 1 ? La croix du Christ est une expression figurée, empruntée à l'arbre extérieur, ou à la croix de bois, sur laquelle le Christ se soumit à la volonté de Dieu, souffrant la mort de la main d'homme mauvais. De sorte que la croix mystique est cette grâce et cette puissance divine qui contrarie les volontés charnelles des hommes, contredisent leurs affections corrompues, et s'oppose constamment aux appétits immodérés et charnels de leur esprit, et elle peut ainsi être justement appelée l'instrument par lequel l'homme meurt entièrement au monde et est rendu conforme à la volonté de Dieu. Car rien d'autre ne peut mortifier le péché, ni nous rendre facile la soumission à la volonté divine en des choses qui sont très contraires à la nôtre. 2. La prédication de la croix, donc, au temps primitif, fut à juste titre appelée par Paul, cet apôtre célèbre et habile dans les choses spirituelles, la puissance de Dieu, bien que, pour ceux qui périssent alors comme maintenant, elle soit folie. Pour ceux qui étaient véritablement las et chargés, et qui avaient besoin d'un libérateur, pour qui le péché était oppressant et détestable, la prédication de la croix, par laquelle le péché devait être mortifié, était la puissance de Dieu, ou une prédication de la puissance divine par laquelle il est fait disciple du Christ et enfant de Dieu. Et la croix agissait si puissamment en eux qu'aucun moqueur orgueilleux ou immoral ne pouvait les en détourner. Mais pour ceux qui marchent dans la voie large, dans toute la latitude de leur convoitise, et consacrent leur temps et leurs soins au plaisir de leurs appétits corrompus, pour qui tout joug ou tout frein est intolérable, la prédication de la croix est folie. 3. Où cette croix apparaît-elle, et où doit-elle être prise? Je réponds « au-dedans », c'est-à-dire dans le cœur et l'âme, car là où est le péché, là doit être la croix, or tout mal vient du dedans. Le Christ a enseigné cela, du dedans, dit le Christ, du cœur de l'homme, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité et la méchanceté, la tromperie, la débauche, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil, la folie, tous ces mots viennent du dedans et souillent l'homme, Matthieu 15, 18. Le cœur de l'homme est le siège du péché, et là où il est souillé, il doit être purifié et sanctifié. Là où le péché vit, là il doit mourir, il doit être crucifié. Le mal est habituel dans nos cultures, et il a rendu naturel pour les hommes de faire le mal. De même que l'âme gouverne le corps, ainsi la nature corrompue incline l'homme tout entier, pourtant tout vient de l'intérieur. 4. L'expérience enseigne à chaque fils et à chaque fille d'Adam de s'y conformer, car les tentations de l'ennemi visent l'esprit qui est au-dedans. Si les tentations sont repoussées, l'âme ne pêche pas. Si elles sont acquises, la convoitise naît vite, c'est-à-dire des désirs déréglés. La convoitise, une fois conçue, enfante le péché. Le péché, une fois commis, engendre la mort, Jacques 1, 15. Voici à la fois la cause et l'effet, la véritable généalogie du péché, son origine et sa fin. En tout cela, le cœur de l'homme mauvais est la fabrique du diable, son esprit est semé dans le cœur de l'homme son atelier, le lieu de sa résidence, où il exerce sa puissance et subsiste. C'est pourquoi la rédemption de l'âme est justement appelée la destruction des œuvres du diable et l'introduction d'une justice éternelle, 1 Jean 3, 8, Dan 9, 24. Lorsque les Juifs voulurent diffamer le miracle du Christ consistant à chasser les démons, en l'attribuant blasphématoirement à la puissance de Béelzébul, il dit que « nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a d'abord lié l'homme fort », Matthieu 12, 29. Cela montre la distinction entre Béelzébul et la puissance par laquelle Christ le dépossédait, mais cela nous enseigne aussi que les âmes des méchants sont la maison du diable, et que ses biens, ses mauvaises œuvres, ne peuvent jamais être détruits tant que celui qui les a produits et qui garde leur maison n'est pas d'abord lié. Tout cela permet de savoir aisément où la croix doit être prise, par laquelle seul l'homme fort doit être lié, ses biens pillés, et ses tentations repoussées, c'est au-dedans, dans le cœur de l'homme. 5. Comment la croix doit-elle être portée chaque jour, le chemin comme la croix est spirituelle. C'est une soumission intérieure de l'âme à la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée par la lumière du Christ, dans les consciences des hommes astérisque bien qu'elle soit contraire à leurs propres inclinations. Par exemple, lorsque le mal est montré par la lumière, ce qui montre le mal leur dit aussi qu'ils ne doivent pas y céder, et s'ils écoutent le conseil de la lumière, elle leur donne la puissance d'y échapper. Mais ceux qui regardent et fixent la tentation finissent par s'y accorder et sont vaincus par elle, ce qui entraîne culpabilité et jugement. Jugement, parce que la croix du Christ est cet esprit et cette puissance en les hommes, non pas des hommes, mais de Dieu, qui contrarie et reprend leur convoitise et affection charnelle. Ainsi, la manière de porter la croix est une entière résignation de l'âme aux révélations et aux exigences de la lumière du Christ. Dans cette révélation, n'accordez pas de place au plaisir mondain, au repos charnel, ni à l'intérêt, car ceux-là sont capturés en un instant. Au contraire, veillez continuellement contre les moindres apparences du mal, et par l'obéissance de la foi, c'est-à-dire d'un amour véritable pour Dieu et d'une confiance en lui, offrez avec joie à la mort de la croix cette part mauvaise ainsi révélée. Le Judas, dans le cœur de chaque homme, ne veut pas endurer la chaleur de cet assaut contre le péché, et, impatient à l'heure de la tentation, par sa proximité avec le tentateur, trahirait plus aisément son âme entre ses mains. Astérisque, la plupart des gens ne pourront pas voir la lumière du Christ immédiatement. Entendre la parole du Seigneur au-dedans résulte généralement des premiers efforts faits pour attendre le Seigneur. Même entendre la parole du Seigneur dans votre cœur n'est pas immédiat pour la plupart des gens. Pour suivre Christ, vous devez avec persévérance, chaque jour et patience aller à lui pour vous asseoir dans un silence humble en l'attendant, en écoutant et en veillant pour sa parole au-dedans de votre cœur. Lorsque vous l'entendez, alors vous devez lui obéir. Obéir, c'est suivre. Le renoncement à soi se produit en obéissant aux commandements prononcés du Seigneur entendu, plutôt qu'à votre volonté, sa volonté, non la vôtre, c'est cela porter la croix, qui est la puissance de Dieu pour vous délivrer du péché. La croix s'oppose à votre volonté et à votre esprit charnel, qui doivent être reniés. Tant que vous ne pouvez pas entendre la parole du Seigneur au-dedans et la suivre, vous devez obéir à la loi qui est dans le cœur de chaque homme et qui est votre pédagogue. La loi intérieure vous rappelle quel péché vous devez cesser et vous pousse à chercher la grâce du Seigneur, que vous obtenez en venant à Christ, en l'écoutant en silence, en l'entendant, et avec la foi en celui que vous entendez, en lui obéissant. Voir jusqu'à ce que vos paroles et vos actes soient inspirés par Dieu, vous devez obéir à la loi intérieure dans le cœur de chaque homme pour en savoir plus. C'est une croix pour la volonté de l'homme que de s'asseoir à attendre Dieu, d'écouter en silence, de lutter pour empêcher son esprit d'errer. C'est une croix pour la volonté de l'homme que d'obéir à ce qu'il est commandé et enseigné par le Saint-Esprit. C'est cette croix à laquelle vous devez vous renoncer et que vous devez prendre chaque jour pour ensuite suivre Jésus. Obéir à sa voix et à sa lumière, c'est suivre Jésus. Voilà comment accomplir ce pourquoi vous avez prié 1000 fois, « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ». Vous ne pouvez pas être son disciple à moins de prendre votre croix chaque jour et de suivre ses ordres. Le salut n'est reçu que par ceux qui suivent l'agneau partout où il va, qui obéissent entièrement à la voix du Seigneur dans tout ce qu'il commande. Ne vous découragez pas si vous n'entendez pas pendant un certain temps. Même votre attente vous est comptée, que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous, à proportion de notre attente et de notre espérance en toi. Psaume 33, 22. Pour écouter dans un silence humble et entendre, voici ce que le Seigneur m'a enseigné. Commencez par penser au nom de Jésus mais pas sans cesse. Si votre chair a des accoudoirs, posez vos coudes sur les accoudoirs, joignez vos mains comme pour prier, et laissez-les en léger contact avec votre bouche, votre menton ou votre nez. Forcez-vous à sourire et maintenez le sourire. Le sourire chassera les inquiétudes, qui constituent 90% des pensées. Un sourire libère des endorphines et de la sérotonine, ce qui facilite la détente et l'abandon des pensées. Lorsque vous vous trouvez englouti dans un flot d'inquiétudes, ou bloqué à repasser l'horreur de vos péchés passés, après avoir déjà confessé une fois votre regret à leur sujet, un sourire forcé brisera ces schémas de pensée, vous permettant de recentrer votre esprit sur l'attente, la vigilance et l'écoute, afin que le Seigneur parle. Fermez la bouche, serrez les dents, et respirez par le nez tant qu'il est dégagé, respirez par le nez avec les dents serrées réduit considérablement les pensées. Cela est vrai en attendant comme dans les activités ordinaires. Non seulement écoutez, mais regardez et regardez la lumière sur vos paupières fermées, dirigez vos yeux vers le haut à droite. Continuez à regarder ce qui est dans votre champ de vision, si infime soit-il, et cela gardera votre esprit immobile. En regardant, vous gardez votre esprit immobile, et l'écoute devient naturelle avec un esprit calme. Votre esprit est occupé à regarder et ne peut donc pas penser. Respirez lentement et profondément. Une respiration lente rend la pensée plus difficile. En inspirant lentement et profondément, concentrez-vous sur la sensation du haut à droite de votre tête, et en expirant lentement, concentrez-vous sur la recherche de la lumière en haut à droite de votre tête, angle de 45 degrés vers le haut. Chaque fois que vous expirez, regardez plus à droite mais sans tourner la tête. Après avoir chassé l'air de vos poumons, sans inspirer immédiatement, retenez votre souffle quelques secondes. Vous sentirez une pression dans votre tête, ne lui résistez pas, accrochez-vous Y, et lorsque vous inspirez à nouveau, gardez cette pression, car elle peut vous aider à maintenir le silence. Avec la pratique, vous pouvez conserver cette pression tout au long de votre temps d'attente. Soyez prêt à rejeter les pensées et les visions que le diable lance au hasard pour faire divaguer votre esprit. Rejeter les pensées avant d'être perdu dans ses pensées est difficile, mais cela devient plus facile avec la pratique. Le Seigneur ne rappelle jamais un péché pour lequel vous avez déjà exprimé du regret et que vous avez cessé de commettre, mais le diable fait surgir des visions de vos expériences passées pour provoquer votre détresse et votre perte de concentration. Le diable fait aussi surgir un sujet qui vous intéresse puis se met à parler de ce sujet en vous tentant d'écouter ses propos fangeux, et, comme de petits rêves, il peut vous tendre des pièges avec des tentations sexuelles. Vous pouvez arrêter cette fange en revenant à l'observation vers le haut à droite, pour commencer ou pour recommencer lorsque vous vous apercevez que vous êtes perdu dans vos pensées, expirez en vous arrêtant quelques secondes pour saisir la pression, souriez, inspirez en ressentant le haut à droite de votre tête, puis expirez de nouveau en regardant vers le haut à droite. Tant que vous n'avez pas été crucifié et n'êtes pas capable de distinguer la voix du Seigneur de la voix de l'ennemi, vous ne devriez suivre que les commandements entendus qui vous demandent de vous repentir de vos comportements que vous comprenez être mauvais. Tout commandement entendu qui diffère d'une exigence de vous repentir d'un comportement, d'une conduite, d'une parole ou de pensée, doit être ignoré, car il vient de l'ennemi. Ignorez toujours tout commandement de vous repentir qui n'est pas moral, pur, paisible, équitable, doux, facilement accepté, immédiatement compris, sincère. Même les commandements du Seigneur qui châtient ou reprennent doivent être purs, doux, équitables, facilement acceptés, avoir du sens, etc. Pour en savoir plus sur la manière d'attendre, de veiller, d'écouter et d'entendre avec succès, voir la page web « Comment tirer profit de la puissance transformatrice de Dieu en attendant le Seigneur » 6. Oh, cela montre, par l'expérience de chacun, combien il est difficile d'être un vrai disciple de Jésus. Le chemin est en vérité étroit, et la porte très resserrée, où pas un mot, non pas même une pensée, ne doit échapper à la vigilance. Matt 24, 42, 25 et 13, 26, 38, 41, n'y éviter le jugement, exigeant une telle attention, une telle prudence, une telle patience, une telle constance, une telle sainte crainte et un tel tremblement. Phil 2, 12. Cela donne une interprétation aisée de cette parole difficile. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, 1 Cor 15, 50, à savoir ce que captivent les convoitises et affections charnelles, car ils ne peuvent porter la croix. Et ceux qui ne peuvent endurer la croix ne doivent jamais avoir la couronne. Pour régner, il faut d'abord souffrir. 2 Tim 2, 12, Rome 8, 17. Être crucifié sur la croix intérieure du renoncement à soi est nécessaire pour éviter d'être banni du ciel à l'heure de mourir, c'est nécessaire pour atteindre le salut, c'est nécessaire pour être toujours en Christ, c'est nécessaire pour être un vrai chrétien. Beaucoup pourraient dire « Oh, je n'ai pas vraiment besoin d'une couronne, je veux seulement aller au ciel, mais à moins que votre esprit égoïste ne soit mis à mort sur la croix, vous n'êtes pas apte à la compagnie du ciel, à moins que votre nature humaine égoïste n'ait été éliminée, à moins que vous n'appreniez à vivre dans l'obéissance à Dieu, vous seriez malheureux au ciel, pleurant vos anciennes dépendances et vos anciens passe-temps. » Chapitre Yves. Mais quatrièmement, quel est le principal rôle et la principale tâche de l'homme avec la croix ? 1. C'est en effet le moment décisif d'y répondre vraiment, clairement et entièrement. Tout ce qui précède ne sert qu'à introduire ceci, et ne pas répondre, ce n'est rien de moins qu'égarer l'âme loin de la béatitude. Je vais donc poursuivre cette question avec l'aide de Dieu, et selon la meilleure connaissance qu'il m'a donnée dans l'expérience de plusieurs années de discipleship. 2. La grande œuvre et l'affaire principale de la croix du Christ dans l'homme, c'est le renoncement à soi, un mot aussi profond en lui-même que sévèrement contradictoire au monde, peu compris et encore moins accueilli par lui. Et pourtant il faut le porter. Le Fils de Dieu nous a précédés et, par la coupe amère qu'il a bue et le baptême qu'il a souffert, nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. 1 Pie 2, 21, ce qui l'amena à poser cette question difficile à la femme de Zébédée et à ses deux filles, lorsqu'elle sollicitait que l'un s'assit à sa droite et l'autre à sa gauche dans son royaume. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ?» Il semble que leur foi fut forte, ils répondirent « Nous le pouvons ». Alors il répliqua « Vous boirez en effet ma coupe ?» et vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé, mais il laissa leur récompense à son père, Matt 20, 21, 23. 3. Quelle était la coupe qu'il a bu et le baptême qu'il a souffert ? Je réponds, c'était le renoncement et l'offrande de lui-même, par l'Esprit éternel, à la volonté de Dieu, subissant les tribulations de sa vie et les agonies de sa mort sur la croix pour le salut de l'homme. 4. Quelle est notre coupe et notre croix que nous devrions boire et souffrir ? C'est le renoncement et l'offrande de nous-mêmes, par le même Esprit, pour faire ou souffrir la volonté de Dieu pour son service et sa gloire. Telle est la vraie vie et l'obéissance de la croix de Jésus, toujours étroite, mais la voie est clairement tracée et foulée par l'exemple du Christ. Car lorsqu'il n'y avait personne pour aider, pas un pour ouvrir les seaux, pour donner la connaissance, pour diriger le cours du relèvement du pauvre homme, il vint dans la grandeur de son amour et de sa force. Et bien qu'il fût revêtu des infirmités d'un homme mortel, étant intérieurement fortifié par la toute-puissance d'un Dieu immortel, il parcourut tous les défilés et difficultés de l'humanité, et le premier entre tous foula le chemin encore inexploré vers la béatitude. 5. Ô venez, suivons-le, le capitaine de notre salut le plus infatigable, le plus victorieux, auprès duquel tous les grands Alexandres et les puissants Césars du monde comptent moins que le plus pauvre soldat de leur camp ne pouvait compter pour eux. Certes, ils étaient tous de grands princes à leur manière, et des conquérants aussi, mais selon des principes bien différents. Car Christ s'est abaissé, sans réputation pour sauver le genre humain, mais eux ont ruiné des peuples en masse pour accroître la leur. Ils ont vaincu les autres, non eux-mêmes. Christ a vaincu le moi, et cela les a toujours surpassés. Par son mérite, il était donc le prince et conquérant le plus excellent. De plus, ils ont agrandi leur empire par le rapt et le sang, mais lui par la souffrance et la persuasion. Il n'a jamais usé de contraintes, eux ont toujours usé de la force. Misère et esclavage ont suivi toutes leurs victoires, les siennes ont apporté davantage de liberté et de bonheur à ceux qu'il a vaincus. Ils ne cherchaient qu'à se plaire à eux-mêmes, dans tout ce qu'ils faisaient, ils visaient à plaire à son Père, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est ce modèle très parfait de renoncement à soi que nous devons suivre, si nous voulons jamais parvenir à la gloire. Pour pouvoir suivre, considérons le renoncement à soi dans sa véritable distinction et dans toute son étendue. 6. Il y a un moi légitime et un moi illégitime, et tous deux doivent être reniés à cause de celui qui, soumis à la volonté de Dieu, n'a rien jugé trop cher afin de nous sauver. Bien que le renoncement au moi légitime soit un concept avancé, dont l'homme mondain, au commencement de la croix, n'a pas besoin de comprendre, étant occupé au sacrifice quotidien et avide fait au plaisir du moi illégitime, toutefois, pour le bénéfice de quelques-uns qui sont assez avancés dans cette guerre spirituelle pour en recevoir quelques services, je vais au moins l'effleurer. 7. Le moi légitime que nous devons renier, c'est cette commodité, cette aisance, cette jouissance et cette abondance, qui en elles-mêmes sont si loin d'être mauvaises, quelles sont la largesse et les bénédictions de Dieu envers nous, mari, femme, enfant, maison, terre, réputation, liberté, et la vie elle-même. Ce sont des faveurs de Dieu, que nous pouvons goûter avec un plaisir légitime et faire valoir justement comme notre intérêt honnête. Mais lorsque Dieu les réclame, à quelque moment que le prêteur les redemande ou qu'il lui plaise d'éprouver nos affections par le fait de nous en séparer, je dis que lorsqu'elles entrent en concurrence avec lui, elles ne doivent pas être préférées, elles doivent être reniées. Christ lui-même est descendu de la gloire de son Père et s'est volontairement rendu sans réputation parmi les hommes, afin de nous rendre de quelque prix auprès de Dieu, et lui qui estimait que ce n'était pas une usurpation d'être égal à Dieu, s'est humilié jusqu'à la pauvre condition de serviteur, oui, jusqu'à la mort ignominieuse de la croix, fil de 5-8. 8. C'est la doctrine qu'il nous enseigne par ses paroles, « Celui qui aime père ou mère, fils ou fille, plus que moi, n'est pas digne de moi », Matt 10, 37. Encore, « Quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple », Luc 14, 33. Et il dit clairement au jeune homme riche que, s'il voulait la vie éternelle, il devait tout vendre et le suivre, Marc 10, 21-22. Une doctrine aussi triste pour lui que pour ceux qui, comme lui, malgré leur haute prétention religieuse, aiment en vérité leur possession plus que Christ. Cette doctrine du renoncement à soi est la condition du bonheur éternel. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, Matt 16, 24. Et si nos proches s'opposent à notre recherche de Dieu, à notre suivi de Christ avec notre croix, nous devons risquer qu'ils choisissent de retirer leur soutien et leur affection lorsque nous choisissons de suivre Dieu, plutôt que d'abandonner notre quête. 9. C'est ce qui fit que ces pêcheurs honnêtes quittèrent leur métier légitime et le suivirent lorsqu'il les y appela, et d'autres, qui attendaient la consolation d'Israël, offrirent leurs biens, leur réputation, leur liberté et même leur vie, au mécontentement et à la fureur de leurs parents et du gouvernement sous lequel ils vivaient, pour l'avantage spirituel qui leur revenait de leur fidèle attachement à sa sainte doctrine. Il est vrai que beaucoup auraient excusé de le suivre, dans la parabole du festin, les uns avaient acheté un champ, les autres s'étaient mariés, et d'autres encore avaient acheté des paires de bœufs, et ne pouvaient venir, Luc 14, 18-20, c'est-à-dire qu'un amour immodéré du monde les en empêchait. Leur jouissance légitime, au lieu d'être leurs servantes, devinrent leurs idoles. Ils adorèrent leurs occupations plus que Dieu, et ne voulurent pas les quitter pour venir à Dieu. Mais cela est rapporté à leur honte, et nous pouvons y voir la puissance du moi sur l'homme mondain, et le danger qui lui vient de l'abus des choses licites. Quoi, votre femme vous est-elle plus chère que votre sauveur, et votre affaire est-elle préférée au salut de votre âme? Oh, prenez garde que vos consolations ne se révèlent d'abord des pièges, puis des malédictions. Les surestimer, c'est provoquer celui qui les a donnés à les reprendre. Venez et suivez celui qui donne à l'âme la vie éternelle, 10. Malheur à ceux dont le cœur est dans leur bien terrestre, car quand ils disparaissent, leur ciel disparaît avec eux. Les possessions sont un péché commun à la plus grande partie du monde, parce qu'ils dépendent du confort qu'elles procurent, et il est lamentable de voir combien leurs affections sont enlisées et empêtrées dans leurs commodités et leurs aménagements. Le vrai homme qui se renonce est un pèlerin, mais l'homme égoïste est un habitant du monde. L'un l'utilise, comme on utilise les navires pour se transporter, lui ou son équipement, dans un voyage pour rentrer chez soi, l'autre ne regarde pas plus loin, quoiqu'il prétende verbalement que d'être établi ici dans l'abondance et l'aisance, et il s'y complaît si bien que, s'il le pouvait, il ne ferait pas d'échange. Pourtant, il ne se donnera pas la peine de penser à l'autre monde avant d'être sûr qu'il va mourir. Mais cela peut s'avérer trop tard, et ainsi il n'ira pas vers Abraham, mais vers le châtiment éternel, comme dans la parabole du riche et de Lazare, histoire aussi vraie que triste, 11. Mais d'un autre côté, les disciples de Jésus ne se renoncent pas sans but ni résultat, et en vérité, Christ lui-même avait en vue la joie éternelle, à cause de la joie qui lui était proposée, dit l'auteur aux Hébreux, il a enduré la croix, Hébreux 12, 2, c'est-à-dire qu'il s'est renié lui-même, à porter les reproches et la mort infligées par les méchants, et à mépriser la honte, à savoir le déshonneur et la dérision du monde. Cela ne le rendit ni craintif ni hésitant, il l'a tenu pour peu de choses, et il est assis à la droite du trône de Dieu. Et pour leur encouragement et grande consolation, lorsque Pierre lui demanda ce qu'il recevrait, eux qui avaient tout abandonné pour le suivre, il leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi dans la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez aussi assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël, Matt 19, 27, 29, qui étaient alors dans une apostasie loin de la vie et de la puissance de la piété. » Tel fut le lot de ses disciples, compagnons plus immédiats de ses tribulations et premiers messagers de son royaume. Mais ce qui suit ensuite s'adresse à tous, et quiconque aura abandonné des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, ou une femme, ou des enfants, ou des terres à cause de mon nom, recevra le centuple et héritera la vie éternelle, Matt 19, 29. C'était cette récompense, cette couronne éternelle de justice, qui, à toutes les époques, a suscité dans les âmes des justes un saint détachement, oui, un mépris du monde. C'est à cela que l'on doit la constance des martyrs, quant à leur sang, le triomphe de la vérité. 12. Ce n'est pas une doctrine nouvelle, elle est aussi ancienne qu'Abraham, Gênesis 12, 1, 5. Dans plusieurs exemples très remarquables, sa vie fut faite de renoncement. D'abord, en quittant son propre pays, où l'on peut bien supposer qu'il était établi au milieu de l'abondance, ou du moins du nécessaire, et pourquoi? Parce que Dieu l'appelait. Certes, cela devrait suffire comme raison, mais telle est la dégénérescence du monde que, dans les faits, cela ne suffit pas. Et le même acte pour le même motif chez quiconque aujourd'hui, bien qu'il soit loué chez Abraham, serait tourné en dérision. Les gens sont si enclins à ne pas comprendre ce qu'ils louent, non, à mépriser ces actions lorsqu'ils les rencontrent chez les gens de leur propre temps, alors qu'ils prétendent les admirer chez leurs ancêtres. 13. Mais Abraham obéit. La conséquence fut que Dieu lui donna un pays puissant, ce fut la première récompense de son obéissance. La suivante fut un fils dans sa vieillesse, et ce qui grandit encore la bénédiction, après que selon la nature, le temps où sa femme pouvait enfanter était passé, Gênesis 17, 16, 19. Pourtant Dieu réclama son bien-aimé, leur enfant unique, la joie de leur âge, le fils d'un miracle, celui dont dépendait l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Pour ce fils, dis-je, Dieu appela une épreuve puissante, qui pourrait-on penser, aurait pu renverser sa foi et faire trébucher son intégrité, du moins l'amener à ce débat intérieur, ce commandement est déraisonnable et cruel, c'est celui du tentateur, il ne peut être de Dieu. Car faut-il croire que Dieu m'a donné un fils pour que je l'offre en sacrifice? Que le père devienne le boucher de son enfant unique? Encore, qu'il me demande d'offrir le fils de sa propre promesse, par lequel son alliance doit s'accomplir, c'est incroyable. Je dis qu'ainsi Abraham aurait pu, assez naturellement, discuter avec la voix de Dieu et céder à ses grandes affections pour son Isaac bien-aimé. Mais le bon vieux Abraham, qui connaissait la voie qui lui avait promis un fils, n'oublia pas de la reconnaître quand elle le lui redemanda. Il ne discute pas, bien que cela parût étrange et peut-être, comme homme, avec surprise et horreur. Il avait appris à croire que Dieu, qui lui avait donné un enfant par miracle, pouvait en opérer un autre pour le préserver ou le lui rendre. Ses affections ne purent contrebalancer son devoir, encore moins vaincre sa foi, car il l'avait reçue d'une manière qui ne lui permettait de douter de rien de ce que Dieu lui avait promis. À la voix de cette toute-puissance, il s'incline, bâtit un autel, il lit son fils unique, allume le feu, et étend la main pour prendre le couteau, mais l'ange arrêta le coup. « Arrête, Abraham, ton intégrité est prouvée. Que s'ensuivit-il? Un bélier fut sacrifié à sa place, et Isaac lui fut rendu. Cela montre combien peu suffit lorsque tout est abandonné, et combien peu de sacrifices contente le Tout-Puissant lorsque le cœur est approuvé. Ainsi, ce n'est pas le sacrifice qui recommande le cœur, mais le cœur qui donne au sacrifice son agrément. Abraham vivait à une époque et dans un lieu où le sacrifice d'enfants à de faux dieux était courant, de sorte que cet ordre n'était pas choquant comme il l'est pour nous aujourd'hui. Personne qui cherche Dieu en suivant ses commandements ne recevra jamais l'ordre de faire du mal à une autre personne. La douceur est le fruit de l'Esprit de Dieu, non la violence. Souvenez-vous, ignorez tout commandement qui n'est pas moral, pur, paisible, équitable, doux, facilement accepté, immédiatement compris, sincère, Jacques 3:17, même les commandements qui vous châtient ou vous reprennent de la part du Seigneur doivent être purs, doux, équitables, facilement acceptés, avoir du sens, etc. Il peut venir un temps où, étant suffisamment pur et capable de distinguer la voix du Seigneur de la voix de l'ennemi, vous recevrez les paroles pour reprendre sévèrement quelqu'un, par exemple un prêtre ou un pasteur opposant. Mais parce que ces paroles proviennent des mots exacts de Dieu que l'on vous dit de prononcer, elles sont fournies pour aider une telle personne à comprendre les conséquences de ses comportements, non pour lui nuire. Dieu touche souvent à nos meilleures consolations et réclame ce que nous aimons le plus et ce dont nous sommes le moins disposés à nous séparer. Non qu'il l'enlève toujours entièrement, mais pour éprouver l'intégrité de l'âme, pour nous mettre en garde contre les excès, et afin que nous nous souvenions de Dieu, l'auteur des bénédictions que nous possédons, et que nous en soyons détachés. Je parle d'après mon expérience. Le moyen de conserver nos jouissances est de les abandonner, et bien que cela soit difficile, il est doux de les voir rendus, comme Isaac le fut à son père Abraham, avec plus d'amour et de bénédictions qu'auparavant. Au monde stupide, aux chrétiens mondains non seulement étrangers, mais ennemis de cette excellente foi. Et tant qu'il en est ainsi, vous ne pourrez jamais en connaître les récompenses. 14. Mais Job rivalise avec Abraham, son renoncement à soi fut lui aussi très remarquable. Car lorsque les messagers de ses afflictions vinrent à lui en grand nombre, un récit douloureux après l'autre, jusqu'à ce qu'il se trouvât presque aussi nu qu'à sa naissance, la première chose qu'il fit fut de tomber à terre et d'adorer cette puissance, et de baiser cette main qui le dépouillait, si loin de murmurer qu'il conclut ses pertes de biens et d'enfants par ses paroles, « Nu suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, Job 1:21. » Oh la foi profonde, la patience et le contentement de cet homme excellent, on aurait pensé que l'annonce répétée des catastrophes aurait suffi à renverser sa confiance en Dieu, mais il n'en fut rien, cela le soutint. Et il nous dit même pourquoi, son Rédempteur vivait, je sais, dit-il, que mon Rédempteur est vivant, Job 19, 25-26. Et il parut bien qu'il l'était, car il l'avait racheté du monde. Son cœur n'était pas dans ses consolations mondaines. Son espérance vivait au-dessus des joies du temps et des troubles de la mortalité, ni tenté par l'une, ni ébranlé par l'autre, mais croyant fermement que, lorsque les vers après sa peau, auraient dévoré son corps, pourtant de ses yeux il verrait son Dieu. Ainsi le cœur de Job était à la fois soumis à la volonté de Dieu et consolé en elle. 15. Moïse est l'exemple suivant dans l'histoire sacrée d'un renoncement à soi remarquable, avant les temps de l'apparition du Christ dans la chair. Il avait été sauvé lorsqu'il était nourrisson par une providence extraordinaire, et il semble, d'après ce qui suivit, pour un service extraordinaire. La fille de Pharaon, dont la compassion fut le moyen de sa préservation, lorsque le roi décréta le massacre des mâles hébreux, Exode 1, 15-16, le prit pour son fils et lui donna l'éducation de la cour de son père. Sa belle prestance et ses capacités extraordinaires, jointes à l'amour qu'elle lui portait et à l'influence qu'elle avait sur son père pour le promouvoir, ont dû le rendre, sinon apte à la succession, du moins apte à être le principal ministre des affaires sous ce prince riche et puissant. Car l'Égypte était alors ce qu'Athènes et Rome furent plus tard, la plus célèbre pour le savoir, les arts et la gloire. 16. Mais Moïse, destiné à un autre ouvrage et guidé par un principe plus élevé, dès qu'il fut parvenu à l'âge de la maturité, vit l'impiété de l'Égypte et les oppressions que ses frères y subissaient devenir pour lui un fardeau trop lourd à porter. Et bien qu'un homme si sage et si bon ne pût manquer des reconnaissances généreuses et reconnaissantes que méritait la bonté de la fille du roi envers lui, il avait aussi vu ce Dieu qui est invisible, Hébreux 11:24-27, et il n'osa pas vivre dans l'aisance et l'abondance de la maison de Pharaon, tandis que ses pauvres frères étaient contraints de faire des briques sans paille, Exode 5:10. Ainsi la crainte du Tout-Puissant s'empara profondément de son cœur. Il refusa noblement d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et choisit plutôt une vie d'affliction avec les Israélites les plus méprisés et opprimés, et d'être le compagnon de leurs tribulations et de leurs périls, que de jouir pour un temps des plaisirs du péché, estimant que les mêmes reproches étaient dirigés contre Christ. Il souffrit pour avoir fait ce choix si peu mondain, mais recherchant des richesses plus grandes que tous les trésors de ce royaume. 17. Et il n'était pas aussi insensé qu'il le pensait. Il avait la raison de son côté, car il est dit qu'il avait les yeux sur la récompense et qu'il ne refusa qu'un avantage moindre pour un plus grand. En cela, sa sagesse surpassa celle des Égyptiens, car eux choisirent le monde présent, aussi incertain que le temps qu'il fait, et perdirent ainsi le monde à venir qui n'a pas de fin. Moïse regarda plus profondément et pesa les jouissances de cette vie dans la balance de l'éternité, et constata qu'elle n'avait pas de poids dans le monde à venir. Il ne se gouverna pas par la possession immédiate de quelque chose, mais par la nature et la durée de la récompense. Sa foi corrigea ses affections et lui apprit à sacrifier les plaisirs du moi à l'espérance d'une récompense plus excellente dans l'avenir. 18. Isaïe fut aussi un exemple considérable de ce bienheureux renoncement à soi. Lui qui, fils de la royauté, devint prophète et abandonna les intérêts mondains de l'une pour la foi, la patience et les souffrances de l'autre. Car son choix ne lui fit pas seulement perdre la faveur des hommes, mais leur méchanceté, irritée par son intégrité envers Dieu dans ses reproches ferves et audacieux, fit finalement de lui un martyr. Ils le scièrent barbarement avec une scie de bois sous le règne du roi Manassé. Ainsi mourut cet homme excellent, communément appelé le prophète évangélique. 19. J'ajouterai, parmi beaucoup, un exemple de plus, tiré de la fidélité de Daniel, un jeune homme saint et sage. Lorsque ses avantages mondains entrèrent en concurrence avec son devoir envers le Dieu Tout-Puissant, il les abandonna tous. Au lieu de chercher à conserver sa position dans le monde, il se soucia avant tout de préserver l'honneur de Dieu par sa fidélité à sa volonté, malgré le danger pour lui-même. Et bien qu'au début cela l'exposa à la ruine, toutefois, pour l'encouragement de tous ceux qui, comme lui, choisiront de garder une bonne conscience en un temps mauvais, son choix le fit même grandement avancer dans le monde, et le Dieu de Daniel fut rendu célèbre et redoutable par sa persévérance, même aux yeux des rois païens. 20. Que dirais-je de tous les autres, qui n'estimaient rien de valeur comparé à la volonté de Dieu, qui abandonnèrent leur consolation mondaine, et exposèrent leur aisance et leur sécurité, chaque fois que la vision céleste les y appelait, à la colère et à la malice de princes dégénérés et d'une église apostate. Plus particulièrement Jérémie, Ézéchiel et Michée, qui, après s'être reniés eux-mêmes par obéissance à la voix divine, scellèrent leur témoignage de leur sang. Ainsi le renoncement à soi fut-il la pratique et la gloire des anciens, prédécesseurs de la venue du Christ dans la chair, et espérons-nous aller au ciel sans lui maintenant, alors que notre Sauveur lui-même en est devenu l'exemple le plus excellent. Quand bien même certains souhaiteraient ne pas avoir à porter la croix, mais nous devons nous renier nous-mêmes et ainsi être les vrais imitateurs de son bienheureux exemple. 1 Pierre 2, 21, 21. Que tu sois, qui voudrais faire la volonté de Dieu mais faibli dans tes désirs à cause de l'opposition des considérations mondaines, souviens-toi que je te dis, au nom du Christ, que celui qui préfère père ou mère, sœur ou frère, femme ou enfant, maison ou terre, réputation, honneur, charge, liberté ou vie, au témoignage de la lumière de Jésus dans sa propre conscience, sera rejeté par lui lors de l'enquête solennelle et générale sur le monde. Lorsque tous seront jugés et recevront selon les œuvres accomplies, non selon la prophétie. C'était la doctrine de Jésus que si ta main droite te fait tomber, tu dois la couper, et si ton œil droit te fait tomber, tu dois l'arracher. Matt 5, 29-30. C'est-à-dire que si les consolations les plus chères, les plus utiles et les plus tendres dont tu jouis se dressent sur le chemin de ton âme et interrompent ton obéissance à la voix de Dieu et ta conformité à sa sainte volonté révélée en ton âme, tu es tenu, sous peine de damnation, de t'en séparer. 22. La voix de Dieu est une voix de foi, aussi étrangère à l'esprit que la mort l'est au moi. Ce sont les enfants de l'obéissance, comme Paul, qui estiment toutes choses comme balayure et fumier afin de gagner Christ, et de connaître et de marcher dans cette voie étroite. La présomption ne suffit pas, et les idées élevées n'y entrent pas, seuls les obéissants mangent le bon de ce pays. Iacchut 1,19. Ceux qui font sa volonté, dit le bienheureux Jésus, connaîtront la doctrine. Jean 7,17, il les instruira. Il n'y a pas de place pour l'instruction là où le moi légitime est seigneur et non serviteur. Car le moi ne peut la recevoir, ce qui devrait recevoir l'instruction est opprimé par le moi craintif et n'ose pas. Oh, que diront mon père ou ma mère, comment mon mari me traitera-t-il? Ou enfin, que me fera le magistrat? Car bien que j'ai une persuasion très puissante et une claire conviction dans mon âme à propos de telle ou telle chose, pourtant, considérant combien c'est peu à la mode, quels ennemis cela a, et combien je leur paraîtrai étrange et singulier. J'espère que Dieu aura pitié de ma faiblesse. Si je succombe, je ne suis que chair et sang, peut-être qu'à l'avenir il me rendra plus capable, et il y a bien assez de temps. Ainsi parle l'homme égoïste et craintif. Mais remettre au lendemain est le pire, car l'âme perd en ne prenant aucune décision, ne pas décider c'est décider, le commencement du processus apporte avec lui la puissance. Dieu n'a jamais convaincu les gens, si ce n'est lorsqu'ils étaient soumis, et il les a alors rendus capables. Il n'exige rien pourquoi il n'ait pas fourni la capacité d'accomplir, autrement il se moquerait des hommes, il ne sauverait pas les hommes. Il te suffit de faire ton devoir, puisque Dieu te montre ton devoir. Pourvu que tu consultes au-dedans cette lumière et cet esprit par lesquels il te donne la connaissance. Ceux qui cherchent la puissance sont ceux qui ne reçoivent pas Christ dans ses convictions sur l'âme, et par conséquent ils manqueront toujours de puissance. Mais ceux qui cherchent ses convictions reçoivent la puissance, comme ceux d'autrefois, de devenir enfants de Dieu, par la pure obéissance de la foi.
23.
C'est pourquoi laissez-moi vous implorer, par l'amour et la miséricorde de Dieu, par la vie et la mort du Christ, par la puissance de son esprit et par l'espérance de l'immortalité, vous dont les cœurs sont établis dans vos consolations mondaines, et qui aimez ainsi davantage votre propre personne que ces choses célestes, de laisser le temps passé suffire, de ne pas croire qu'il vous suffit d'être exempt de telles impiétés, dans lesquelles on en trouve trop, tandis que votre amour désordonné des choses licites a souillé la jouissance que vous en aviez. Revenez donc, et écoutez la voix douce et silencieuse dans votre conscience, elle vous dit vos péchés et la misère où ils vous plongent, elle vous fait découvrir vivement la vanité même du monde, et ouvre à l'âme quelques perspectives de l'éternité et les consolations des justes qui sont dans le repos. Si vous vous y attachez, elle vous séparera du péché et de vous-même. Vous trouverez bientôt que la puissance de ses charmes dépasse celle des richesses, des honneurs et de la beauté du monde, et finalement elle vous donnera une paix que les tempêtes du temps ne pourront jamais faire naufrager ni troubler. Ici tous vos plaisirs sont bénis, bien que petits, ils sont grands par cette présence qui est en eux. Même en ce monde, les justes y sont mieux, car ils usent du monde sans reproche parce qu'ils n'en abusent pas. Ils voient et bénissent la main qui les nourrit, les veille et les préserve. Comme, en le contemplant dans toutes ses œuvres, il ne les adore pas, mais celui qui les a faites, la douceur de ses bénédictions est un avantage sur ceux qui ne le voient pas. De plus, ceux de Dieu ne s'enflent pas dans l'abondance, ni ne s'abattent dans l'adversité. Et pourquoi? Parce que, par sa présence divine, ils sont modérés dans l'une et consolés dans l'autre. En bref, le ciel est le trône, et la terre n'est que le marchepied de l'homme qui a crucifié le moi sous ses pieds. Ceux qui connaissent cette condition ne se laissent pas aisément ébranler. Ils apprennent à compter leurs jours, afin de ne pas être surpris par leur fin, et à tirer le meilleur parti de leur temps, parce que leurs jours sont mauvais, Éphésiens 5:16, se souvenant qu'ils sont intendants et qu'ils doivent rendre leur compte à un juge souverain. C'est pourquoi ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour lui, et en lui ils meurent, et ils sont bénis avec ceux qui meurent dans le Seigneur. Ainsi je conclus mon discours sur le bon usage des choses licites de ce monde par le moi. Suite au chapitre 5, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.